Konnichiwa à tous, bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, émission 141 déjà, une émission qui est consacrée forcément, comme tout premier mercredi du mois, au bilan du mois précédent, c'est-à-dire donc que nous allons revenir sur toute l'actualité du mois d'avril. Et clairement, on imaginait qu'elle allait être un petit peu plus calme que celle du mois de mars qui a été complètement hallucinante.
Hein. Perdu.
Et ben, c'est clairement perdu. Je ne sais pas comment on va faire pour faire tenir tout ça dans une heure.
Eh ben on va zapper des trucs.
Mais c'est d'une richesse incroyable. En test, on a eu vraiment énormément de jeux. Hein. Super Street Fighter 4, il y a eu Nier, il y a eu Monster Hunter Tri, Splinter Cell Conviction, BlazBlue, Fragile Dreams. On aura les impressions dans ce podcast hein, de Future Soldier par Julo, du prochain Prince of Persia, Les Sables Oubliés. Mais aussi de Red Dead Redemption avec Traz. On parlera aussi de Metal Gear Solid Peace Walker, forcément.
Tu veux
ça
dire
y est.
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption.
Et aussi d'Alan Wake, qui fait aussi partie de l'actualité. Enfin bon, il y aura énormément de choses. Et puis il y a eu plein d'annonces. Hein. L'arrivée de Gears of War 3, ça y est, on a enfin les dates. Les titres des prochains Assassin's Creed et Driver, très probablement. L'arrivée de la Nintendo 3DS. Un nouveau Silent Hill HD, les Pokémon. Enfin, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Il y en a tellement. Et ben donc, mesdames et messieurs, on va commencer tout d'abord par les présentations. Vous l'avez entendu, Raon, ça va ?
Oui, ça va, et toi ?
Ben, ça va bien.
Je suis bien rentré de ton super trip chez Kojima.
Mais ça va, je vais essayer de tenir la route pendant cette petite heure de podcast.
On vous prépare des belles choses hein, sur Peace Walker.
Oui,
là.
Ça va venir en plus dans les semaines à venir, d'ici la fin du mois et du début juin. Il y aura plein de choses pour suivre jusqu'au lancement du jeu hein, qui est prévu chez nous pour le 17 juin. Vous avez déjà les impressions hein, que vous avez pu lire sur la version française. On est aujourd'hui les seuls à l'avoir eu et on en est très honorés une fois de plus. Traz, ça va bien ?
Salut, ça va, merci.
Tu vas pouvoir nous parler de Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption.
Qui s'annonce
est un jeu qui s'annonce grandiose.
Ah ouais, c'est probablement le jeu le plus attendu de l'été, enfin un petit peu avant l'été.
Avec Alan Wake, effectivement. Mm-hmm. Je pense que c'est les deux gros jeux.
Moi, c'est les deux gros jeux que j'attendais en mai. Ouais.
Le plus attendu en mai, je pense.
Et ben donc, on en parle dans quelques minutes. Julo, ça va bien, Julo, qui porte un très beau suite Tokyo.
Tout à fait, ça te plaît ?
Tokyo Hotel.
J'en doute pas. Bonjour à tous, comment allez-vous ?
Bien, ça va et toi ?
Konnichiwa !
Konnichiwa, minasan ! Et à côté de toi, on a un Marseillais, Mimik,
pure souche.
Ça va bien ?
Konbawa.
Eh ben écoute, toi aussi.
Bah t'es souhait.
Allez, c'est parti pour ce podcast 141. On va commencer, vous le savez, par les annonces traditionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé sur Gameblog pendant le mois d'avril ? Eh ben déjà, tout d'abord, 1 million de commentaires. C'est grâce à vous, hein, forcément, dans les forums de Gameblog. C'est quand même assez hallucinant hein, si vous le reportez sur le nombre de jours, hein, 365 jours multipliés par 3 ans à peu près. Mm-hmm. Ça fait quand même une sacrée belle moyenne, d'autant que tout s'est accéléré très clairement sur les 2 dernières années. Week-end
on a
compris,
eu des gros posters dès le départ en même temps.
Compris, hein. Ça fait quand même des milliers de messages hein, quotidiennement, tous les jours.
Parfois très intéressant.
Voilà. En tout cas, merci à tous. On le rappelle, hein, les forums sont ouverts à tous. Ils sont totalement gratuits. On vous demande de vous y exprimer avec une langue française châtiée. Et
si
la critique...
possible, avec respect et courtoisie envers les autres, même si ils vous énervent à mort. Mm-hmm. Donc, il y a une fac, hein, c'est un petit lien en haut à gauche sur le forum. N'hésitez pas à la lire, il y a des règles, il faut les respecter. Voilà.
Voilà, la critique est totalement admise à partir du moment où elle est courtoise et constructive. Mmh.
J'en profite pour saluer au passage vite fait encore nos amis les modérateurs qui font ça bénévolement.
Justement, j'allais parler de Lush Life. Je pense que sur le million de commentaires, il doit être à la moitié juste pour lui. Quoi.
Il a quasiment 25 000 commentaires.
Voilà.
2% nous dit Mister P des messages.
C'est quand même énormissime.
C'est pas mal.
Il a des grosses mains pour ça.
Voilà, il peut taper très très vite comme dans Ghost in the Shell. Autre information importante, forcément, elle vous concerne une fois de plus, c'est la communauté qui se porte visiblement très bien hein, sur Gameblog, puisque vous avez déjà ouvert après moins de 3 mois eh bien, plus de 1100 Gameblog à vous. Ce sont vos blogs sur lesquels vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, ce qui vous intéresse, les rendre les plus beaux possibles, les plus intéressants. Ils mettent de la vidéo, des photos, des impressions sur des jeux ou autres. C'est à vous de le faire et après de communiquer. Hein. N'hésitez pas surtout à en faire la promotion de vos blogs pour les rendre plus populaires sur Facebook, sur Twitter. Vous avez tous les liens, tous les instruments qui vous servent à faire ça. À chaque fois, en dessous de vos posts, n'oubliez pas les petits liens Facebook, les petits liens Twitter.
Le petit bouton partagé.
Exactement, le bouton partagé qui vous permet de toucher de plus en plus de monde. Et puis n'oubliez pas que là, si on parle des Gameblogs, il y a aussi forcément les tests accessibles dans toutes les fiches jeux sur Gameblog. Et puis aussi les articles qu'on met régulièrement, au minimum une fois par semaine, en valeur, en avant, sur la homepage. On lit très fréquemment la plupart des articles. On sélectionne les meilleurs, les plus intéressants, les plus pertinents, les plus originaux. Et puis, vous avez la possibilité, comme ça, pour les tout meilleurs articles, d'être au milieu des news traditionnelles de Gameblog. Donc, une bien belle valorisation. Voilà.
Exact.
Autre information, puisqu'on parle de la communauté et des blogs en l'occurrence, là on va parler d'un blog VIP qui vient d'ouvrir sur Gameblog, on en est très content. Raon, c'est l'éditeur français Zalag.
C'est ça, qui a ouvert en novembre 2009, donc c'est un tout jeune éditeur français qui va développer principalement sur WiiWare et PC, qui va faire aussi de la bande dessinée et qui a deux univers qu'ils ont déjà dévoilés. On a fait un article complet sur leur petite gamme qui arrive, donc on leur souhaite bon courage. Et en tous les cas, c'est sympa de partager avec nous des strips, etc., qu'ils font dans leur bureau avec leur propre graphiste sur la façon dont ça se déroule un petit peu au cœur d'un éditeur. C'est un éditeur un petit peu particulier par rapport à certains autres, mais c'est bien de pouvoir partager ça aussi. Et puis évidemment, il y aura bien d'autres blogs VIP qui viendront très bientôt sur Gameblog, donc on vous en reparlera quand ils seront ouverts.
Exactement, et d'ores et déjà vous avez les blogs VIP de Puncher Impact pour suivre quasiment au quotidien, ils postent assez souvent l'évolution de leur titre. Il y a aussi le blog de Swing Swing Submarine, un petit éditeur français
développeur de Montpellier,
exactement, voilà. Dans le sud. Et puis il y a aussi quand même un développeur au cœur du développement de Crysis 2, donc pas n'importe quel jeu,
SK,
SK qu'on salue, qui effectivement
un français en Allemagne.
Et puis vous devriez avoir des blogs VIP, comme le disait Raon, bientôt des nouveaux, des jolis, des tout beaux. Voilà, et puis la dernière information concernant Gameblog, avant de passer vraiment à l'actualité purement jeux vidéo, eh bien c'est le lancement de Gameblog Mobile, là, début avril. C'est donc l'arrivée sur tous les mobiles 3G, Edge, d'une version simplifiée de Gameblog, qui vous permet de surfer beaucoup plus vite, beaucoup plus accessible finalement. Même quand vous êtes dans le métro, bah, ça passe vite, plutôt que rester devant une page qui met 30 secondes, une minute à charger, c'est quand même beaucoup plus simple, et on l'étoffera au fur et à mesure, bien évidemment. Voilà. Puis on le voit dans les chiffres, vous êtes déjà très nombreux, vous connectez sur vos iPhones et autres, visiblement surtout plus sur l'iPhone selon les chiffres.
T'as aussi accès aux commentaires là-dessus, qui est quand même pas mal du tout. Enfin, moi en tout cas, j'étais surpris de le voir. Donc,
il y a une version light, une version mobile du forum, effectivement.
Et je trouve ça plutôt pas mal.
Exactement. Allez, on passe à l'actualité, votre actualité, celle que vous avez sélectionnée, puisque vous le savez, tous les samedis de chaque semaine, le best-of est sur Gameblog et vous propose de voter pour l'actu qui vous a le plus touché, surprise ou en tout cas intéressé. Et bien la première, c'est Bungie qui signe avec pour Activision pour 10 ans. Et ça, c'est pas n'importe quoi, on revient dessus rapidement, Raon, parce que c'est quand même grosse annonce.
C'est une très grosse annonce, c'est surtout une annonce assez inattendue finalement, parce qu'ils avaient pris leur indépendance auprès de Microsoft qui remplissait ce rôle auparavant. Et là, ils ont signé effectivement, donc ils sont évidemment toujours en train de terminer Halo Reach, qui sera leur prochain jeu, dont la bêta a commencé là le 3 mai.
Et qui sera leur dernier Halo.
Et alors effectivement, ils ont confirmé que ce sera leur dernier Halo. La licence elle-même appartient à Microsoft, donc il y aura probablement d'autres jeux Halo par la suite. Mais eux vont créer un nouvel univers, et c'est sur ce nouvel univers qu'ils ont décidé de signer avec Activision. Ils sont déjà en pré-prod dessus. On ne sait pas exactement ce que ça sera. Évidemment, ils n'ont révélé aucun détail à ce sujet, mais il y aura probablement plusieurs jeux qui seront édités et distribués avec le soutien d'Activision.
Et surtout, ça sera multiplateforme.
A priori, ce sera multiplateforme, effectivement.
Moi, j'ai été très étonné de voir que cette annonce a été faite avant l'E3. J'ai un peu l'impression que c'est allumé un contre-feu par rapport, et on en reparlera tout à l'heure, au scandale qui est en train de se passer un petit peu entre Activision et Infinity Ward et le départ un petit peu de tous les membres clés d'Infinity Ward.
C'est fort possible. En tous les cas, on peut légitimement se poser la question d'initiative d'Activision eux-mêmes pour essayer effectivement de détourner un petit peu l'attention, mais je suis pas certain que ça fonctionne d'une part. Et puis il y a autre chose aussi, je pense que le 3 il va y avoir énormément de choses, et donc peut-être que c'est aussi ça se fait assez régulièrement de faire ces annonces un petit peu avant le 3 pour éviter d'être noyé dans le reste de ce qui va se passer pendant la convention. Donc
apparemment les pourparlers auraient duré entre 8 et 9 mois d'après ce que j'ai lu. Donc je sais pas si c'est énorme ou pas, je me rends pas trop compte.
Pour ce genre de deal, ça me paraît pas tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un deal relativement atypique, puisque Bungie garde la propriété de cette prochaine IP justement. Donc Activision, ça se fait pas trop en général sur ce genre de deal. Donc c'est que Bungie a très bien négocié. Effectivement, ils sont entièrement propriétaires de ce qu'ils vont faire avec. Ils ont une liberté totale, et apparemment ça leur tenait vraiment à cœur, probablement à cause de la licence Halo et de la façon dont ça s'est passé, et d'Infinity Ward qui perd effectivement la licence Call of Duty, même s'ils sont en train de se battre auprès des prises des tribunaux pour essayer de récupérer des trucs.
Un peu d'argent, c'est tout.
À suivre dans les prochains mois, mais peut-être qu'on aura déjà un premier teaser, des premières images de quelque chose. Peut-être qu'ils travaillent dessus depuis quelques temps déjà.
En pré-prod, ouais. Ouais. Brian Gerard, qui est le community manager de Bungie, a dit qu'il ne montrerait rien le 3. C'est ce qu'il nous a dit. Enfin, moi, quand je l'ai vu au Extend, c'est ce qu'il avait dit. Qu'il n'y aurait rien le 3. Depuis, il est très légèrement revenu dessus en disant peut-être éventuellement qu'il y aura quelque chose, mais ça m'étonnerait.
Eh bien, à suivre, c'est dans pas si longtemps que ça. Hein. Ce sera du 15 au 17 juin prochain. Et bien évidemment, Gameblog sera présent sur place pour vous faire vivre le 3 comme jamais. Autre information que vous avez choisie dans les best-of, c'est la fin des démos jouables gratuites. Et là, franchement, on a vu une montée de boucliers, une levée de boucliers. Et puis, on peut le comprendre quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Traz?
C'est une histoire à dormir debout. Moi, très clairement, effectivement, c'est quasiment mon coup de gueule du mois. Hein. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, Electronic Arts qui souhaite vendre ses démos jouables. Alors que jusqu'à présent, évidemment, ça n'a jamais été le cas. Et forcément, après ce genre d'annonce, les gens commencent à s'énerver un peu.
Mais c'est pas juste des simples démos toutes bêtes en fait qu'ils veulent vendre. Enfin, c'est pas les démos actuelles. Il y a
non,
un twist.
Effectivement, ça c'est un peu plus étoffé, etc. Mais ce qui est certain, c'est que avec ce genre d'annonce, la profession a l'impression que, enfin, pense que ça pourrait s'étendre un peu partout, quoi. Donc parce que Electronic Arts va s'amuser à jouer à ça, donc tout le monde va suivre la tendance et évidemment, on sait très bien à quoi ça va servir, hein, ce genre de démo. C'est surtout pour
faire de l'argent.
Récupérer encore beaucoup d'argent, comme les DLC, comme les trucs
mais
comme ça.
Mais à
ça,
la fois, il le justifie pour une raison qu'on a souvent entendu hein, chez les développeurs, c'est que les démos pour les joueurs,
légitime.
C'est super. Ça nous permet de voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais pour les développeurs, c'est un vrai casse-tête parce qu'ils doivent les faire vraiment en amont. Ils doivent finalement perdre du temps, entre guillemets, sur la démo qui est quasiment un mini-développement à part entière par rapport au développement même du jeu.
Oui, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir à mi-parcours d'un jeu un truc pas fini. Donc il faut qu'ils lèchent particulièrement cette démo-là. Donc il faut qu'il la débug, il faut qu'il finisse la plupart des aspects techniques, même s'ils ne sont pas représentatifs du jeu final. Enfin, bon, c'est un vrai boulot.
Et parfois en plus, ça leur porte préjudice. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui, voyant une démo, disent oh, bah c'est tout pourri, et la démo en fait n'est pas très représentative de ce qu'est le jeu final. Et finalement, ça leur fait perdre potentiellement des ventes, alors qu'en fait le jeu final est de meilleure qualité. Donc c'est vrai que c'est pas du tout pour dire c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut comprendre pourquoi, peut-être que dans leur tête, ça germe cette envie de faire payer des démos un peu plus consistantes, parce que ce ne seraient pas les démos actuelles. Hein,
ils mettraient effectivement plus de moyens dessus, etc. Voilà. Et donc.
Et plus d'heures de jeu aussi.
Ils essaieraient de cautionner ce genre de produit.
Mais.
Oui, moi, il y a un truc que j'avais dans la tête, c'est qu'effectivement, on voit que sur certains jeux, on a des différences entre la démo et la version finale, donc c'est qu'il y a un vrai travail dessus. Donc, contrairement à toi, Traz, même si effectivement, je suis assez étonné de cette démarche, je ne suis pas totalement surpris, et pour moi, c'est finalement très logique, en fait. Il y a un vrai boulot dessus pour avoir des vraies démos carrées. Voilà.
Finalement, dans le marché de la musique, alors après, on va dire que ça ne marche pas très bien, mais enfin bon.
Les hippies.
C'est les singles, c'est une démo de l'album.
Oui, en quelque sorte, oui. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que. Même si on partait du principe et qu'on leur laisse le bénéfice du doute, c'est-à-dire ça va rapporter de l'argent qui va aller directement dans les caisses du studio qui développe le jeu pour finir le développement et alléger un petit peu le financement du jeu final, moi ce qui me fait peur c'est que ça peut signer l'arrêt de mort de beaucoup de jeux triple A parce que la réception de la démo n'aura pas fonctionné, donc les gens n'auront pas acheté la démo. On va finalement se dire au lieu de finir le jeu correctement, ben on va le torcher très vite parce que finalement
ça
marchera
pas l'air d'attirer les gens.
Voilà, et puis dans ces cas-là, tu peux prendre un Dead Space, un Mirror's Edge, tous ces trucs-là qui, parce que c'est Electronic Arts comme par hasard quand même qui parle de ça et qui s'est planté sur ses premières licences-là. Tu te dis, ben, ça veut dire que des jeux comme ça peut-être n'auraient pas été aussi finis et aussi soutenus par leur éditeur pour aller jusqu'au bout de la route si la démo leur avait fait croire à l'éditeur que de toute façon ça ne marcherait pas.
C'est un problème complexe, hein. Peut-être qu'on en saura plus, en tout cas on posera la question quand on rencontrera Electronic Arts à l'E3, voir un petit peu où ils en sont dans cette démarche. Pour l'instant c'est des choses qui ont été soulignées par un analyste, hein, Michael Pachter, donc pour l'instant ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Hein.
Et le patron de Crytek aussi, hein, qui suit un petit peu son éditeur quelque part, en disant les démos gratuites c'est une grosse habitude qu'on a dans les jeux vidéo. En gros, il dit que c'est une mauvaise habitude, quoi, que ça va pas durer.
Mais quelque part, je vois peu de médias en fait qui donnent comme ça. Le cinéma vous donne pas une demi-heure de film
Non,
gratuit,
mais ils te donnent une bande-annonce quand même.
Ouais, bon, enfin la bande-annonce est de 2 minutes 30.
Ah oui, mais il faut quand même les faire. Hein. Il y a des gens qui sont payés pour ça, quoi.
Il y a des bandes-annonces pour le jeu vidéo. Oui,
ça se fait de plus en plus. Les 15 premières minutes d'un film, voilà, sur
pour
le
la
net.
Presse.
Bah quoi que tu vas retrouver sur des sites internet voilà,
ou en bonus de DVD ou des choses comme ça.
Non, avant même d'aller voir le film au cinéma, t'as des
c'est encore très très rare quand même.
Bah écoute, moi j'en ai vu quelques-unes là ces derniers temps
sur les centaines
sur les gros films, mais c'est sûr que sur Avatar par exemple non quoi, mais
bah il y a eu 7 minutes sur le Xbox Live.
Bah voilà, tu vois.
Mais c'est... oui, mais c'est 7
minutes.
C'est
7 minutes ouais.
C'est un gros teaser quoi.
Ouais.
Mais c'est assez nouveau. Mais, ça
mais à contrario, t'as des gens comme Rockstar qui font pas de démo, qui n'en feront pas, point barre.
Ouais.
Parce qu'ils se disent voilà, c'est trop de boulot. Surtout qu'en plus, bon, eux en l'occurrence, ils font des jeux open world, donc c'est un peu plus compliqué en plus de limiter une démo. Ouais. Just Cause 2 y est très bien arrivé, hein, soit dit en passant quand même. Bah, faire une démo vachement sympa où tu joues 20 minutes et basta quoi. Avec un timer tout con. Mais effectivement, c'est vrai que la démo c'est quand même quelque chose de très lourd pour la plupart des développeurs et pour la plupart des studios.
Ouais, mais moi je suis. Enfin. Encore une fois, on en parlera dans les coups de gueule, mais je trouve que c'est un peu se moquer du monde, quoi. Je veux dire, quand on vend un jeu à 70 euros, moi je pense qu'un éditeur qui met les moyens dans un jeu à 30 ou 40 millions d'euros peut se permettre de faire une petite démo.
Mais c'est pas forcément l'éditeur qui.
Mais surtout
qui fait les frais, c'est le développeur qui doit assurer le boulot derrière.
Oui, mais je suis désolé, moi je trouve que ça fait partie d'un concept de fabrication d'un jeu vidéo.
Mais juste, c'est devenu en tout cas vraiment une habitude, et du coup aujourd'hui c'est presque bizarre de pas avoir de démo. Tu te méfierais presque d'un jeu dont on te propose pas de démo, tu vois, comme pour te dire il est tellement pourri que j'ai pas envie que les gens l'essayent, quoi.
C'est un peu comme revenir sur les acquis sociaux.
Et ça c'est un scandale, monsieur.
Et ça en France forcément. Mais ouais, mais ça aura du mal à passer. Mais
si c'était une erreur du haut départ et que maintenant parce que putain ça coûte cher de faire un jeu, et pour le moment les éditeurs, la plupart d'entre eux en tous les cas, ils sont pas forcément super à la fête, quoi.
On rappelle qu'il y a que 10% des jeux qui sont rentables.
Bah, c'est peu et
c'est rien du tout.
Et c'est des investissements sur la plupart, au minimum, on va dire 2 ans pour les AAA, 2, 3 ans plus dans la moyenne, et voire 4 ans pour les plus gros.
Voire 6 ans pour les Last Guardian.
Voilà, c'est ça.
Quand un grand tour,
moi, je vois plus les démos servir que desservir les jeux et les ventes de jeux. Hein.
Finalement, si on regarde bien, les plus gros jeux ont rarement de démos. Il n'y a jamais eu de démo d'un ICO, je dis les plus gros en termes de qualité et machin. Hein. Metal Gear, il y a rarement eu de démo. Il y en a eu pour le 2, mais il y en a pas.
Sûr, regarde
le
God of War, God of War,
il y en a eu.
Il y en a. De toute façon, le truc, c'est que.
GTA, il n'y en a pas.
Bien souvent, de toute façon, les éditeurs sont obligés, et les développeurs, du coup, de bosser des versions démo, entre guillemets, ne serait-ce que pour faire des démos à la presse. Soit pendant les E3, typiquement, il y a un crunch time de ouf pour la plupart des développeurs juste avant l'E3 pour préparer une version, pour présenter leur jeu sur place. Ça les fait super chier, mais là, ils sont de toute façon obligés parce que ça fait partie.
C'est hyper important, il faut le bichonner, voilà. Justement, parce que c'est l'industrie. Tu dois donner un aperçu super complet et en même temps donner vachement envie aux gens, les exciter et tout.
Et là où Traz a raison, du coup, pour le coup, c'est que quand tu fais ce boulot-là, de toute façon, à destination de l'industrie, bah, tu peux le récupérer et le filer aux joueurs après. C'est ce qui s'est passé avec la démo de God of War 3, qui était en fait une démo qui était prévue pour l'E3.
Justement, je trouve ça un bon exemple parce qu'elle est très décevante, cette démo, par rapport au jeu final.
C'est vrai.
Elle n'est pas représentative de la qualité.
Ça, c'est le piège, effectivement. Ouais. Ça, c'est le piège.
Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui se sont achetés God of War et qui ont fait la démo, même si effectivement il y a un écart monumental, et c'est ce que j'essaie de leur dire.
Ça les a conquis.
Ils étaient conquis par cette démo. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ouais. C'est que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont été hyper séduits par cette démo-là, et qu'au final, le jeu final était encore meilleur. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal.
Mais c'est un pari. Eux, ils ont réussi, ils auraient pu se planter.
Paris est magique.
Oui, pas n'importe qui non plus.
On va suivre ça en tout cas très clairement, puisque effectivement, forcément, hein, ça fera débat, et on va voir si ce sera acté, validé, en tout cas mis dans les faits, ou si ça restera finalement qu'à les espèces de fantasmes comme ça, une volonté qu'être évoquée. Autre information que vous avez choisie dans les best-of, le sondage Gameblog Premium. Effectivement, on vous l'a annoncé il y a maintenant quelques semaines, Gameblog va proposer en tout cas un abonnement premium à ceux qui le souhaiteront. On le rappelle une fois de plus, ce n'est ni une obligation et surtout, avant tout, ça n'enlèvera rien au contenu actuel du site d'aujourd'hui et de demain. Ça veut dire que vos news, les tests, les previews, les podcasts, les vidéos...
Rien de ce qui est actuellement gratuit ne passera en payant. Rien.
Exactement. Et pour ceux qui auraient peur en se disant « Oui, mais c'est le grand début et après les nouveautés deviendront totalement payantes, etc. » Non, ce n'est pas le cas.
Une raison toute conne, en fait, c'est que s'il n'y a plus rien de nouveau sans payer, on n'arrivera pas à grossir. Hein.
Exactement.
Donc
c'est avant tout des bonus qui vont être donnés à ceux qui opteront pour cette formule premium, des bonus liés au blog. Il faut bien prendre en considération une chose, c'est que lorsque nous avons posé des questions sur le sondage, il ne faut pas croire que c'est soit l'un, soit l'autre des propositions. Il y aura probablement...
Ni quelque ça en boutique.
Exactement.
Des packages de ouf.
effectivement, et on peut pas encore tout vous révéler, ce sera bientôt officialisé dans quelques semaines, hein. L'abonnement premium, ça va arriver assez vite, mais
c'est
vous verrez
qu'a priori, soutenir surtout aussi,
voilà,
façon parce que on en parle finalement relativement peu, mais pour le moment, comme la plupart des sites internet, Gameblog fonctionne sur un modèle essentiellement publicitaire, et que plus un site peut s'affranchir de ça, et plus il est sain. Donc si on peut être effectivement soutenu par le lectorat de la même manière que des lecteurs soutiennent un magazine, même s'ils achètent là un objet physique, effectivement, mais bon, vous verrez quand on annoncera les choses s'il n'y a pas des choses de ce goût-là avec. C'est aussi une façon de soutenir Gameblog, parce que même si Ankama nous a beaucoup aidé et qu'on a on a beaucoup progressé en 2 ans et surtout depuis 1 an à peu près, et ben il nous reste beaucoup de chemin à faire, et que mine de rien on est très loin d'être sorti du diable Vauvert, c'est ça, voilà.
N'importe quoi.
Franchement, honnêtement,
la cuisse de Jupiter.
N'ayez pas peur, on a vraiment lu l'intégralité des propos qui ont été faits dans ce sondage. Il y a eu beaucoup, on a bien vu qu'il y avait des craintes, beaucoup d'interrogations qui se posaient. On répondra vraiment sans langue de bois à toutes ces questions-là, parce que c'est important. Pour ceux qui se disent, par exemple, que oui, mais Gameblog, ça cartonne, vous êtes maintenant devenu un gros site, donc c'est que ça doit marcher financièrement. Il faut pas
c'est
tout confondre.
Si simple.
Voilà, c'est effectivement, et grâce à vous, Gameblog marche 10 fois mieux que il marchait encore il y a 1 an. Mais on a besoin de marcher encore 100 fois mieux si on veut être totalement vivable, viable, rentable, et donc pouvoir poursuivre l'aventure. Donc c'est très important. Par exemple, des choses, des gens qui disent oui, mais maintenant il y a plein de pubs et tout, donc ça marche. Ben, l'exemple il est tout bête, c'est la même pub de 30 secondes sur TF1 et sur TV Braze, la même pub de 30 secondes ne coûte pas du tout le même prix, ne rapporte pas du tout la même chose
autant
à TF1 qu'à TV Braze. Ben, aujourd'hui, quand vous avez la même pub par exemple sur Gameblog que sur Gamekult, jeuxvideo.com, etc., elle ne rapporte pas du tout la même chose à ces sites qui sont pour l'instant bien devant nous.
Parce que c'est pas la même audience, tout simplement.
Ben, c'est pas la même audience, donc c'est tout bête. Il faut être bien mesuré dans ces propos-là. Donc oui, Gameblog va beaucoup mieux. Va grandir bien, sainement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et effectivement l'abonnement premium, pour certains, ceux qui auront envie, pas plus, de soutenir vraiment l'aventure et forcément d'en avoir quelques petits bonus en plus, exclusifs, premium, eh bien ce sera l'occasion de participer encore plus près, au plus près, de cette belle aventure qu'on espère vivre avec vous encore très longtemps. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ?
Je crois que tout est dit. Hein.
Désinstallez vos adblogs.
Ouais, non mais c'est vrai, pour ceux qui pensent que c'est rien du tout, bah si, chaque fois un adblock, c'est un petit peu d'espérance de vie en moi, c'est comme une cigarette un petit peu.
C'est ça.
Adblock, c'est une cigarette, alors c'est pas grand chose à chaque fois, mais si vous en fumez beaucoup, et ben au bout d'un moment, badaboum, c'est fini. Allez, on passe à la dernière information que vous avez choisie dans les best-of, c'était notre news sur les soucis rencontrés par Natal. Très honnêtement, on en a parlé énormément dans
long,
le précédent
en
podcast.
En travers et en diagonale.
Voilà. Donc
depuis ça s'est vachement amélioré, il faut quand même le relativiser, c'est-à-dire qu'au moment où on a balancé cet article, ces informations concernaient le kit dit final, mais le problème c'est qu'en fait depuis Microsoft a énormément travaillé, a renvoyé beaucoup d'autres kits mis à jour, et une mise à jour en l'occurrence presque toutes les 2 semaines à tous les développeurs.
Et quand par hasard maintenant c'est 10 fois mieux.
C'est peut-être pas, je sais pas si c'est 10 fois mieux, mais en tous les cas il y a beaucoup de problèmes qui semblent avoir été résolus.
Ce qu'on a essayé nous était quand même assez inquiétant, mais...
Bon,
pas inquiétant, mais assez décevant, voilà.
Ouais.
Décevant plutôt.
De toute façon, le vrai verdict aura lieu dimanche
13 juin.
13 juin, c'est ça.
À 20h20.
À Los Angeles, puisqu'il y aura effectivement la conférence de presse là-dessus, et donc on pourra vous en reparler quand on aura joué de vrais jeux dans de vraies conditions.
Voilà, dans la foulée, on vous fera une belle Gameblog TV en direct de Los Angeles, montée avec talent par Poufy Pouf, et puis directement mis sur le site comme ça. On en saura beaucoup plus dans quasiment jour pour jour, un mois et
des bananes.
Voilà. Allez, on va passer à l'homme du mois, la rubrique homme du mois. Et là, globalement, on a été assez d'accord. Il n'y a pas eu énormément d'informations fracassantes, de propos sidérants. Ouais. Donc finalement, le seul qui s'est un peu exprimé, et donc on le sélectionne, c'est Hideo Kojima, qui a dit plusieurs choses. Tout d'abord, il a évoqué son prochain projet, et en disant que si je rate mon prochain jeu, je m'arrête. Voilà, il dit, et ça c'est intéressant, je vais avoir 47 ans cette année, cela fait déjà 24 ans que je fais des jeux vidéo, aujourd'hui j'ai un allié qui va gentiment me soutenir dans cette prise de risque, mais si, même si c'est une seule personne, c'est déjà un bon début, si je le rate, je devrais sans doute quitter cette industrie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il dit que mon prochain projet va casser un certain genre de tabou. Est-ce que vous avez des idées ?
La pédophilie, bien sûr.
Un jeu de cul.
Metal Zayagir. Je ne sais pas. Franchement, pour l'instant...
Tu en sais probablement plus que nous, Julien.
Oui.
Metal Gay.
En fait, très honnêtement, non.
Metal Cock.
On en a parlé effectivement lorsque j'étais à Tokyo pour le rencontrer. Très honnêtement,
c'est des brouffes.
Il reste quand même assez évanescent là-dessus. Néanmoins, il souligne vraiment qu'effectivement, apparemment, c'est un vrai gros challenge pour lui et ses équipes et que ce sera un truc assez différent.
Mais il a plein de projets, cet homme-là. Il foisonne d'idées de toute façon, donc il s'arrêtera pas là. C'est pas possible. C'est même s'il se plante.
J'espère en tout cas, parce que mine de rien, il apporte quand même pas mal de choses, même si ses jeux sont pas toujours d'une qualité hallucinante. Au moins, dans ce média, c'est une figure importante. Il bouscule un petit peu les codes. Il fait bouger les lignes. Et puis, autre information le concernant, il a évoqué son prochain jeu, un autre prochain jeu, parce qu'il a plusieurs projets, le monsieur, qui pourrait être Zoé 3. Et là, j'ai un peu plus d'infos quand même, mine de rien. Parce que forcément, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai posé des questions sur Zoé 3.
Des questions métaphysiques.
C'est pas comme si ça m'intéresse pas.
Tu t'es infiltré dans les bureaux.
Exactement. J'ai eu cette chance de pouvoir être au cœur de Kojima Productions, ce qui est très, très rare. Et j'ai vu, en rentrant, et je me suis dit, oh là là, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Un Zoé Anubis 2. Un logo, etc., collé contre un mur. J'ai fait oh, scoop. Voilà. Et si je peux vous en parler là librement, c'est que vous aurez bien compris qu'en fait, c'est pas une officialisation du projet. C'est qu'en fait, au cœur de l'équipe, il y a un méga fan de Zone of the Enders qui, dès qu'il a entendu, justement, il a lu sur le net que Kojima commençait à réactiver un petit peu en se disant ouais, je sais qu'il y a une vraie grosse attente, ça faisait partie de mes top priorités, puis ça a un peu descendu, il y a eu d'autres priorités depuis, mais j'y repense quand même. Et ben, il a fait ok, il s'est fait un t-shirt avec marqué Monsieur Kojima, si vous faites un prochain Zoé, je veux en être. Il a fait des logos, apparemment, quasiment chaque jour, il fait des artworks.
Le mec, il est en train de se taper toute la popote du jeu tout seul.
Et il va se faire virer parce que pendant ce temps, il bosse pas sur les trucs sur lesquels il est.
Je vois qu'ils ont du temps.
Et voilà tout ce qu'il va gagner.
Donc effectivement, en tout cas, il y a certains membres de Kojima Productions qui sont aussi à fond que beaucoup de joueurs qui rêveraient de voir ce jeu. Pour l'instant, mais vous en apprendrez un peu plus dans l'interview de Kojima qu'on va vous publier dans quelques semaines. C'est clairement dans leur tête, mais peut-être que ça passera par de l'externalisation. Mais si déjà il évoque ça, c'est quand même que ça est dans un creux
de
sa tête. Hein.
Ça le démange. Mais en même temps, ça n'a pas été. Il gère une boîte. Quoi. Donc,
c'est ça. Et ouais, les deux premiers n'ont pas très bien marché au-delà de leur qualité. Surtout le deuxième.
Est-ce que c'est vraiment porteur, ce genre de titre que personne connaît quasiment?
Mais qu'est-ce qui s'était bien
pourtant? Je suis pas sûr.
Anubis, le Zoé 2, c'était extraordinaire. Et je rappelle quand même, et ça c'est une citation de Kojima sur son Twitter, il dit quand même, donc il parle de ce jeu, il dit « Le titre, le game design, l'histoire, les personnages, les recherches sur l'environnement du jeu, les mechas qui apparaîtront, la direction graphique, le son, le début du jeu et les principales séquences, j'ai tout dans ma tête. » Les mechas!
Bah oui, mais il y en a dans Metal Gear aussi.
C'est un nouveau jeu, il va pas faire des Metal Gear tout le temps quand même.
Et si, malheureusement. Pour l'instant, au niveau track record quand même.
Ouais, c'est certain.
Bon.
Eh bien, à suivre, on en saura plus de manière officielle, validée dans les mois à venir, probablement. Allez, on va passer avec des impressions sur des jeux qu'on a pu essayer, qu'on a pu voir en ce beau mois d'avril. On va commencer avec toi, Julo, avec Future Soldier. C'est le nouveau Ghost Recon qui t'a été présenté chez Ubisoft.
Tout à fait, ouais. Alors, effectivement, on avait vu simplement un petit trailer assez sympatoche, ma foi, en image réelle.
Trailer utile. Très, très à la mode, les trailers en image réelle.
Très à la mode, ouais. Et en fait, c'était assez bien foutu, d'ailleurs.
Oui, il était très bien.
Ubi se rapproche un peu du Cinoche, ça se voit, ils aiment ça, ça le fait bien. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que tout ce qu'il y avait dans ce trailer, illustrait bien tout ce qu'il allait y avoir dans le jeu. C'est-à-dire en gros c'est une suite une suite non officielle, donc gros Ghost Recon Advanced Warfighter, dans le sens où on va encore incarner ces ghosts, donc ces soldats qui sont envoyés assez peu nombreux dans des champs de bataille, etc., pour régler les choses parce qu'ils sont surarmés, etc. Donc on est toujours dans l'anticipation et c'est assez bien foutu. Comme le dit je sais plus qui, un militaire américain, ils ont utilisé cette phrase, les soldats du futur sont des F-16 sur pattes, et c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'ils sont surarmés, ils ont des fusils de dingue avec des doubles chargeurs, des trucs en titane pour couper devant, des machins, enfin des trucs super modernes, ils ont des roquettes directement sur l'épaule. Donc tu vas pouvoir lâcher des roquettes
à la Predator.
Téléguidées directement entre deux rafales peinard quand t'es planqué derrière un mur tranquille. T'as des exosquelettes de ouf. Il y aura, comme on a pu voir dans le trailer aussi, le fameux camouflage optique, donc pour s'infiltrer, machin, etc. T'auras à nouveau plusieurs classes, etc. Donc finalement, dans le concept, ça ressemble beaucoup à Advanced Warfighter. Sauf que là, bah, évidemment, ils ont encore gonflé, comme je disais, tout l'arsenal, etc. Et que on va toujours donner dans un scénario pas très original. Hein, en gros, il y a
une troisième guerre mondiale qui se prépare.
Non, pas du tout. Non, non. Là,
alors,
c'est
une bombe nucléaire, une
menace
terroriste.
Non, un groupe terroriste russe qui fait une espèce de coup d'État, donc qui
le
va
coup d'État.
Un coup d'État. Qui va donc foutre le président russe en pré-retraite et qui vont envahir en fait les pays nordiques qui contiennent du pétrole machin etc. Enfin bref, c'est pas très original, sauf que, et là ça j'aime bien, cette fois en fait on va incarner les ghosts comme d'habitude, mais en plus avoir des scènes qui vont te faire vivre le conflit sous différents angles, et donc tu vas incarner également des civils. Donc par exemple tu vas incarner le garde du corps du président au moment du coup d'État, c'est-à-dire t'as pas trop d'armes, machin, etc. Tu te fais prendre par les Russes, etc. Tu vas incarner aussi des civils, et ça c'est mortel. Et tout ce que tu pourras faire, c'est fuir finalement.
C'est mortel.
Mais je trouve ça génial.
Oui, pour bien sûr, pour l'ambiance. Et
bah
puis,
pour l'ambiance, pour la narration et tout, ouais. C'est génial. Donc ça c'est assez original. Après ils nous ont quand même montré le jeu, et c'est vrai qu'il était pas très avancé. Et donc du coup, c'est ce qui m'a un peu déçu dans cette présentation, c'est qu'on était vraiment devant une espèce de Ghost Recon qui a mélangé avec Gears of War, et donc t'avais une... c'était devenu presque un jeu d'action, et en tout cas dans ce qu'on a vu, on peut pas vraiment tirer de conclusion, etc., mais c'était vraiment impressionnant le changement
d'orientation
quoi. Et ça
en gros ça tue, ça va
déçu.
Tuer et ça va être fantastique.
Ah, t'as rien compris à ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave,
non, c'est
pour
un peu, mais
t'es plutôt
bon.
Un peu déçu.
Plutôt un peu déçu, ouais.
D'accord. Est-ce que c'est la même chose aussi avec Prince of Persia, Les Sables Oubliés, qui est le prochain opus des Prince of Persia et qui revient un peu aux origines.
Un petit peu déçu aussi, ouais. J'avais bien aimé l'épisode dans Cell Shading, et là cette fois ils reviennent vraiment aux sources.
T'étais le seul alors.
Avec il a été très décrié le précédent quand même.
Décrié.
Ah, moi j'ai pas du tout aimé, mais bon, après t'as le droit d'aimer. Hein.
Ah, moi j'ai adoré, moi. Enfin, moi j'ai adoré.
Moi j'ai adoré le style, mais à jouer ça m'a un peu fait chier.
Bah, pareil. Enfin, bref.
Bah, écoute, bref, chacun son truc.
Donc, les sables ça, super oubliés.
Là, ils reviennent donc à la trilogie des sables oubliés, donc des sables du temps. Mm-hmm. Voilà, on retrouve c'est beaucoup plus classique en fait dans la réalisation, mais c'est surtout très daté en fait. Mm-hmm. Parce que autant les animations elles étaient hallucinantes dans le dernier. On a l'impression d'être devant un jeu un peu PS2 en Super HD quoi. Et ça c'est assez décevant en réalité, et tout le game design en fait, tout le level design est très classique aussi. Alors j'ai envie de dire c'est un peu décevant, sauf qu'effectivement une fois que t'as la manette en main et que tu commences à jouer, c'est
ça
toujours
fonctionne.
Aussi kiffant, voilà, ouais. ça fonctionne, etc., surtout qu'il y a des nouveaux pouvoirs. Là on a pu en voir que deux malheureusement, mais c'était qu'une preview. Il y en aura évidemment beaucoup plus avec la possibilité de solidifier l'eau, ce qui permettait de créer des tas de
des
trucs,
pylônes,
etc., des pylônes, ouais. Et tout ça, donc franchement c'était sympa à jouer, ça prend toujours, mais quand même on a l'impression de faire un peu la même chose et d'être revenu en arrière à tous les niveaux quoi.
C'est voilà. Un peu de recul dans le temps, c'est un rewind
tout à fait monsieur,
ouais. Un petit peu, ouais, je trouve.
Donc un petit peu déçu aussi, mais voilà,
à confirmer dans les tests,
on verra ça.
Traz, toi tu as pu voir découvrir le multi de donc l'un des jeux les plus attendus de ce milieu d'année, Red Dead Redemption.
Voilà, on a été voir en Angleterre pour jouer en multi, donc avec une quinzaine de machines.
On resitue un tout petit peu pour ceux qui seraient passés dans une faille temporelle incroyable. C'est quoi Red Dead Redemption?
Bien, c'est ça. C'est un jeu bac à sable à la GTA, en fait, c'est un GTA-like. Et donc, il se passe dans le monde du western.
Dans le Far West.
Voilà, dans le Far West, au moment où commence un peu la révolution industrielle. Mm-hmm. Voilà, donc on est dans la peau de John Marston. Un hors-la-loi repenti qui recherche, on ne sait pas pourquoi, ses ex-acolytes avec qui il a commis pas mal de méfaits. Et donc là, en fait, il a un petit peu le pistolet sur la tempe parce qu'il doit justement les retrouver parce que c'est une espèce de faction qui retient sa femme et sa fille en otage. Justement, mais on
qu'il
sait
pas. Il
est
obligé de retrouver ses potes.
Voilà, il est obligé de les retrouver, mais on ne sait pas encore pourquoi exactement. Ça, on le saura au fur et à mesure de l'histoire.
Alors, tu nous avais déjà donné tes impressions sur la campagne solo. On peut les retrouver sur Gameblog. Mais là, c'est le multi.
Ouais, tout à fait.
Qui a l'air quand même...
Alors, le multi, comme je disais, effectivement, on a joué... ça se joue à 16 maximum. Donc, 16 joueurs. Et donc... donc, il y a plein de choses dans ce multi.
Quoi ?
Notamment, par exemple... tu peux très bien jouer normalement dans le jeu, donc en free roam, on appelle ça comme ça, voilà. Et donc rejoindre une partie à n'importe quel moment quand tu veux, etc. Continuer à faire tes par exemple des minigames dans un bar ou enfin
une bonne auberge.
Voilà, dans un auberge. On continue à faire ça. Ou bien effectivement faire du team deathmatch, du chacun pour sa gueule, du comment on appelle ça, du 8 contre 8, donc en général c'est comme ça que ça se passe, du 8 contre 8. Et c'est enfin moi je suis pas un expert du multi, mais c'est vrai qu'avec cet univers là j'ai l'impression que ça change pas mal de choses quoi.
Mais tu peux créer ton gang aussi avec tes potes et
oui,
commencer
bien sûr,
à partir chasser.
Tu peux, oui, c'est ce que tu disais, que dans le free roam, tu peux faire ce que tu veux et rejoindre une partie en multi quand
la prise
quand
en main,
envie,
tout
quoi.
Ça, comment ça se passe, c'est agréable, bah, les challenges sont bons, ça répond bien.
Oui, tout à fait. Hein. En fait, il y a plusieurs armes. Hein. Tu peux très bien être le sniper dans un coin, ou bien le fusil, enfin pas le fusil à pompe, mais le fusil à canoncier qui va dégommer le mec à 2 mètres. Tu peux aussi utiliser des canons effectivement dans les parties en multi, en team deathmatch. Tu peux récupérer t'as des parties où tu peux récupérer des sacs d'or dans le camp ennemi pour le ramener chez toi. Ou bien quand tu joues tout seul chacun pour sa peau, c'est un ou deux sacs d'or que tu dois récupérer pour ramener dans le coffre commun en fait. Et bien évidemment ce qui est génial, c'est que quand t'as un sac d'or, tu peux marcher un peu plus vite que quand on a deux. Ça, c'est
les environnements sont vraiment vastes ou c'est vraiment découpé comme des petits quartiers
Non, en fait, ils sont vastes, mais ça dépend des parties. Quand tu joues en team deathmatch, là, c'est un petit peu plus vaste, c'est un petit peu plus grand. Et effectivement, quand tu es avec ta troupe de 7 autres personnes, tu dois rejoindre un point marqué d'une croix sur la carte. Et là, en général, il vaut mieux y aller à cheval ou en carriole parce que à pied,
ça
prend un petit peu de temps.
Mais en fait, tu peux jouer en multi dans l'univers entier de Red Dead Redemption.
Exactement. Ouais.
De Red Dead Redemption.
N'importe quoi.
Pardon, de Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption. Oui, tout à fait. Ouais. Tu peux. Tu peux aller jouer un petit peu partout. Et donc, il y a 50 niveaux d'expérience, notamment. Donc,
ah oui, parce qu'ils ont repris en fait le système de Modern Warfare où tu gagnes des XP quand tu réussis tes parties.
Exactement.
Et
tout. Ouais, tout à fait. Donc 50 niveaux d'expérience, c'est quand même pas mal. Hein, donc, et encore une fois, c'est quand tu veux. Si t'as décidé d'être tout seul et de rejoindre une partie après, tu peux, de quitter la partie si tu veux, etc. À n'importe quel moment, ils ont bien insisté là-dessus.
Anytime.
Exactement.
Anywhere. Dans le monde de Red Dead.
Right now. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avant de commencer une partie en multi, justement, t'as une espèce de duel à plusieurs. Donc ça peut aller jusqu'à 8 contre 8. Hein, et tu as un type désigné que tu dois éliminer en priorité. Et donc, évidemment, il y a un dernier qui reste sur la table.
Tous les autres se sont fait flinguer.
Parce que forcément, tous les autres vont crever à un moment donné. Et quand tu restes le dernier, justement, de ce duel de malades, ça compte quand même dans tes statistiques.
D'accord.
Donc, il vaut mieux bien démarrer la partie en commençant par éliminer tous les autres et rester le dernier là-dessus. Quoi. Enfin, bon, il y a plein d'autres choses à dire. Pour trouver d'ailleurs les impressions en multi sur le site.
On rappelle la date.
Des vidéos, des machins. Ça sort le 21 mai.
21 mai.
Sur Xbox 360 et PS3.
Ok.
Et effectivement, ça sera certainement le jeu du mois de mai.
En tout cas, on l'attend.
Facile, quoi.
Avec clairement très beaucoup attendu. D'impatience. Raon, tu as pu, toi, t'essayer, et je t'envie bien, à Alan Wake. Alan Wake, cet écrivain un petit peu maudit, hein, qui n'arrive plus à écrire une seule ligne, et qui va donc partir du côté de Bright Falls, et puis là, t'es la cata.
Avec sa femme, il va explorer effectivement cette espèce de bout de campagne américaine un peu paumé. Je ne sais pas si on va en reparler plus en détail le mois prochain, mais le test va paraître dans pas tellement longtemps. Il est déjà même.
Je crois qu'il est paru il y a quelques heures.
C'est ça.
pour ceux qui, du coup, voudraient. Traîne le podcast sur iTunes.
Voilà.
Et donc, se dirait que peut-être qu'après ils vont aller lire ton test par écrit.
Ça serait bien, oui, parce que je vais pas le refaire en entier ici. Mais pour résumer, ce qui est incroyable, c'est la façon dont tu rentres dedans. Bon, il faut savoir un truc, par exemple, moi à la base, je suis pas très jeu d'horreur ou de frisson. C'est pas un genre qui m'attire énormément. Et malgré tout, on rend les maximum.
Parce que t'es un dur, t'as pas peur, toi.
Voilà, c'est ça. Et en 3 minutes, tu rentrais dedans d'une force. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, une maîtrise de la narration, des petits détails. Et tout ça qui font que tu captes immédiatement l'attention du joueur. Et
Poupi si, est d'accord.
Et s'il y a quelques faiblesses quand même, c'est-à-dire que mine de rien, le jeu est en développement depuis 5 ans et c'est vrai que tu sens que par certains aspects graphiquement ça peut être un peu daté. Genre tu vas avoir des personnages qui sont pas ultra bien modélisés, certaines textures un peu faites par-ci par-là, etc. Des petits trucs comme ça. Mais au niveau des éclairages et des détails qui sont ajoutés par-dessus tout ça, c'est tellement propre et tellement bien fait. Que dès qu'il y a des scènes avec où il joue là-dessus sur ses éclairages et tout ça, il y en a beaucoup quand tu cauchemardes, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, C'est incroyablement prenant quoi. C'est...
Est-ce que, parce que donc, moi j'ai malheureusement pas pu y jouer en profondeur, j'avais vu le jeu chez Remedy, mm-hmm. Il m'avait clairement dit qu'il voulait pas faire un survival horror, pas c'est... un ouais. jeu typiquement horror, etc. Mm.
Il y a effectivement une alternance rythmée entre des moments où tu vas être seul face à une menace un peu diffuse que, mm-hmm. tu, qui peut te tomber dessus un petit peu à n'importe quel moment. Donc ça c'est l'aspect un peu survival, mais c'est aussi alterné bien sûr avec des scènes qui sont peut-être plus narratives, même si elles restent interactives, où tu vas rencontrer des personnages de Bright Falls, où tu vas avoir aussi des flashbacks sur la vie d'Alan Wake qui vont te permettre de comprendre certaines choses. Donc, y a effectivement une alternance entre ces scènes qui sont plus orientées sur l'action et l'exploration et les scènes dites narratives qui se font de moins en moins courantes, on va dire, au fur et à mesure que tu avances sur les 6 chapitres de l'histoire. Il y a 6 épisodes en fait, mm-hmm. qui font grosso modo... une heure vingt, ça dépend lesquels chacun. Quoi.
Donc, c'est très court quand même.
Ça fait 8 heures pour en difficulté normale. Tu vas
ça,
finir.
C'est court quand même.
Alors, c'est relativement court.
Pour 50 développements.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. 50 développements en 8 heures de jeu.
Mais c'est
le ratio.
Attends, c'est une durée parfaitement classique sur les jeux d'aujourd'hui. Hein. Bah, attends, y a aucun jeu
qui est survival, plus dans les... vachement augmenté.
C'est plus dans les 15 heures.
Les dernières années, c'était quasiment 20 heures.
C'est assez court, mais, c'est vraiment impossible d'en décrocher. Hein. Et, ouais. C'est bourré de détails, et si tu prends ton temps vraiment, parce que le problème en fait, c'est que, enfin le problème c'est pas un problème, mais le truc c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est relativement linéaire et que tant que tu passes de scène en scène en avançant, etc., surtout à travers des scènes d'action, mais en réalité, tu sens vraiment que tout Bright Falls, c'est-à-dire toute la région montagneuse de Bright Falls, l'île sur laquelle il y a le chalet au départ et tout ça, a été vraiment pensé d'un seul tenant. Mmh. Et il y a des zones entières à certains niveaux où tu peux explorer vraiment très loin, mmh. aller voir des espèces de corps de ferme paumés, prendre une bagnole, etc. Il y a plein de trucs à trouver là-bas. Et il y a évidemment souvent des récompenses pour les joueurs qui vont aller explorer.
Ah ouais, donc si tu fais tout, ça fait quand même plus que 8 heures.
Mais pour ça, faut jouer comme Raon quand même. Parce que c'est très chiant quand même.
Qu'est-ce que je veux dire, est-ce que les cliffhangers sont de qualité? Est-ce que justement, est-ce que c'est bien amené? Ça, c'était l'une des grosses interrogations sur le côté un peu épisodique, un peu série.
Il y a Stallone dans le jeu?
Non. Référence à un film de Stallone.
Oh merde.
C'est un peu tout naze.
Oh merde.
C'est pas grave. Il y a des cliffhangers, mais c'est pas Lost quoi. C'est pas non plus. C'est vraiment toute l'histoire qui est vraiment intéressante. D'accord. Par contre, le découpage en épisodes est vachement sympa.
Il y a des grosses
vraiment.
Surprises, il y a des trucs, des vrais twists, des choses où on fait oh merde.
Il y a un twist, je crois que c'est dans l'épisode 4 ou l'épisode 5 où tu commences à te rendre compte. Parce que tout le truc d'Alan Wake au départ, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est du cauchemar, ce qui est la réalité. Et donc, au bout d'un moment, ça finit par se préciser. Et c'est à ce moment-là que tu commences à mesurer un petit peu dans quoi t'es. Donc il y a des twists, mais ils vont peut-être pas résonner au même moment, au même endroit pour tout le monde.
D'accord. Mais l'histoire en tout cas est mature, intéressante, c'est une belle
surtout,
narration.
Incroyablement bien narrée, la VF est excellente. D'accord. Les voix sont vraiment réussies.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc
c'est très
chose.
Rarement le cas même. Mmh. Et puis les musiques sont géniales, tout l'enrobage est génial. Ne serait-ce qu'aller récupérer toutes les pages de manuscrits, sachant qu'il y en a certaines que tu ne peux récupérer que en difficulté cauchemardesque, c'est vachement bien.
Ou tous les thermos.
Ou tous les thermos.
Tu vois ce que je veux dire, voilà.
Oui, parce que moi je joue à ça comme je joue à Mario. Oui,
il faut qu'on explique, sinon c'est trop private joke. Non, parce que j'étais juste derrière Raon quand il a commencé à jouer. Et en fait, je suis rentré dedans, vraiment, j'ai trouvé ça génial, sauf que c'était Raon qui jouait. Et ce là, mec, c'est terrible. Il arrive avec sa femme, il garde la voiture, il sort de la voiture, sa femme lui dit « Ah bah le chalet, il est là en contrebas, viens on y va ». La femme, elle avance, qu'est-ce qu'il fait Raon? Il se retourne, il va dans l'autre sens, il va « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Bah je dis « Bah je vais voir si on peut aller autre part, mais qu'est-ce que tu Et là tu vois, j'ai gagné un thermos. Voilà. C'est tout. Ouais. Il a mis 8 heures, peut-être que le jeu.
C'est 2 heures le jeu.
Ça pour un thermos.
Oh là là, mon dieu.
Quand au DLC
sinon,
gratuit.
C'est bien.
Oui.
Ok, et donc, oui, effectivement, il y a un DLC qui est gratuit. Si on récupère Raon, qui est donné directement dans le jeu.
Oui, c'est ça.
Très bien. Et qui quoi? C'est une histoire en plus? C'est un chapitre en plus?
Je sais pas exactement ce que c'est. Ça peut être beaucoup de choses. Parce que...
The Thermos Quest.
Récupérer 600 thermos.
Il faut les éclairer avec sa lampe torche le plus vite possible pour les réchauffer. C'est des piles pour ta lampe torche. The Round's Nightmare.
Le seul truc, c'est qu'effectivement, tu n'auras ce DLC qu'en ayant acheté le jeu neuf. C'est ce que faisait BioWare aussi avec ses jeux, et donc EA en général avec Dragon Age, Mass Effect et tout ça. Mm-hmm. C'est un petit peu pour contrecarrer le marché de l'occasion. Mais je sais pas encore ce que ce sera.
Voilà. Très bien. Bah écoute, s'il y a des Terbos, n'hésite pas à nous tenir au courant. Ça nous intéresse. On va conclure cette zone dédiée aux impressions avec Metal Gear Solid Peace Walker. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre. Si vous avez des interrogations, voilà, voilà. Comme ça, on va le faire interactif.
Moi, j'ai la jouabilité.
La jouabilité.
Des problèmes sur la démo. Est-ce qu'elle est adaptable, ajustable? Est-ce qu'ils ont fait des choses particulières?
Ouais, ils ont fait une démo spéciale. Emmerich.
C'est ça.
Ok, spécial pour moi.
En fait, il y a trois types de commandes. Il y a le type tireur, chasseur et le troisième, je ne sais plus trop quoi.
Le bon chasseur.
Qui, en fait, à chaque fois, c'est soit la caméra se situe sur les boutons triangle, carré, croix, rond, soit il va se situer sur la croix digitale. Soit le dernier mode, en fait, c'est la croix digitale gère la caméra et les touches de la tranche vont te servir à gérer les objets, non pas soit les touches, etc. Très honnêtement, pour un occidental à peu près normal, le type tireur, c'est-à-dire mettre la caméra sur triangle, carré, croix, etc., et donc permettre de se déplacer avec le stick analogique tout en avec le pouce de la main droite, pouvoir gérer la caméra est quand même le plus adapté, parce que ils m'ont montré là-bas les types. Ah bah c'est le type Monster, en fait, puisque en fait c'est repris de Monster Hunter. Mmh. Où en fait avec leur pouce ils dirigent la croix analogique et avec leur index ils le mettent de manière un peu crochue sur la croix digitale et du coup ils arrivent à gérer les deux en même temps. Et eux, au Japon, c'est très populaire, ils jouent comme ça, etc. Et c'est très pratique. Pour nous, c'est pas généralisé, mais moi c'est impossible.
Moi je pense pas non plus.
C'est impossible. Et donc pour répondre à ta question, franchement, avec ce mode-là, il faut un petit peu, il faut un bon quart d'heure, 20 minutes pour histoire de se le mettre bien en main. Dans les menus, il y a énormément de choses qui permettent vraiment de ralentir les mouvements, la vitesse de rotation de la caméra ou de ton déplacement, enfin de le gérer vraiment toi personnellement comme tu te sens le plus à l'aise avec. La visée, qui forcément c'est un peu moins précis qu'avec une manette, et ça on va pas le cacher, hein. C'est de toute manière, même quand tu le maîtrises mieux, un peu moins précis qu'avec un DualShock par exemple, avec deux sticks analogiques. Mais franchement ça marche bien, et puis en plus tu as une petite aide à la visée possible que tu peux activer ou désactiver, qui recentre légèrement quand tu arrives proche de la tête par exemple pour faire un headshot. Bon, c'est pas à 10 mètres, hein, il faut que tu sois quasiment arrivé au bon endroit, mais schlac, qu'il recentre légèrement, ce qui permet d'être un peu plus pratique. Moi j'ai pas éprouvé vraiment de problème avec la prise en main, sortie des peut-être 20 premières minutes, donc à ce niveau là franchement ça va.
D'autres questions?
Oui, question sur le scénario. Bonjour, monsieur Chiez. Bonjour. Alors, j'aurais aimé savoir si toi, effectivement...
Monsieur Julien Hubert, bonjour, j'ai une question.
Oui. Monsieur Julien Hubert, de Paris, voilà. 19e.
Ah merde, je réponds qu'au Marseillais. Question.
Bon, alors le scénario.
Ouais. Non, mais c'est ça la force.
Elle est géniale,
ma
question. Le scénario. Ouais.
Bon, alors, on a compris. Le scénario.
Bon, est-ce que c'est vraiment un MGS5?
Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment MGS5.
Perdu.
Et ça, c'est vraiment génial. Ou terrorisant pour ceux qui se disaient oh, c'est sur PSP, je m'en fous, je le ferai pas. Si vous êtes fan de Metal Gear, très clairement, il va falloir s'y mettre, parce que c'est pas du tout comme un...
Toi-même, tu as retrouvé ta PSP.
Exactement.
Qui était perdue dans le cosmos
voilà.
Depuis quoi, 2 ans?
2 ans, ouais. Voilà. Et je l'ai ouvert, il y avait Ridge Racer le premier dedans.
C'est oh dit, mon Dieu.
Je suis passé de la mise à jour 3.1 à la 6.2 d'un coup.
La pauvre
bon,
PSP,
pas mal.
Il
a pris plein la gueule.
Honnêtement, le scénario, c'est pas du tout comme Special Ops, c'est pas une histoire parallèle, c'est vraiment la suite d'MGS3 et le lien avec le premier Metal Gear Solid, donc de la PS1. Vous allez vraiment apprendre ce qu'il
le
est
lien
devenu
manquant.
De. Exactement, le Missing Link. De Big Boss, donc Snake, la création de Militaires Sans Frontières,
Snake.
Retrouver des personnages finalement que. Enfin, j'en dirai pas plus, j'ai pas du tout envie de spoiler, mais vous verrez, il y a des personnages qu'on connaît, des personnages que vous allez apprendre à connaître, vous allez découvrir beaucoup de choses sur la série, la saga. C'est un vrai Metal Gear dans le sens où ça reste très bavard, il y a énormément de cinématiques.
Mais des cinématiques différentes.
Alors il y a deux styles effectivement de cinématiques, il y a les cinématiques traditionnelles en 3D précalculées, avec le moteur graphique qui est un petit peu boosté, qui est d'ailleurs juste magnifique hein, pour de la PSP, hein. C'est de loin le plus beau jeu que j'ai vu sur PSP. Moi je m'attendais pas à ça il y a encore 2 ans hein, sur PSP, sur une console portable quelle qu'elle soit, remarque. C'est vraiment beau.
Il n'y a qu'à voir le début du jeu, ouais, l'intro là sur la plage qu'on avait vu dans la démo.
Il y a plein d'effets.
Les
zones ne sont pas très grandes, honnêtement, mais elles sont reliées les unes aux autres, ce qui fait que finalement, ça fait un environnement assez large.
Et dans la démo, les loadings entre les deux zones étaient assez courts, donc je sais pas si c'est pareil.
Il est assez court, effectivement, à partir du moment où tu installes le jeu. Si tu installes le... en fait, tu as deux possibilités d'installation.
C'est comme Monster Hunter, en fait.
Une légère qui prend 300 mégas et une un peu plus lourde qui prend 800 mégas, où là tu chopes à peu près tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et là, les temps de chargement, c'est quoi? C'est 5-6 secondes, quoi. Donc ça va, c'est tout à fait gérable. Et donc, pour répondre à ta question, des cutscenes en 3D temps réel et des cutscenes comme Metal Gear Bando dessiné.
Voilà.
Donc dessiné super classe.
Graphique novel, ouais.
Exactement. Dans lesquels, et ça c'est une première, on peut interagir à certains moments. Alors, comme d'hab, dans les Metal Gear, on peut zoomer à tout moment, regarder, machin. Parfois en zoomant, ça enlève certains vêtements sur certaines personnages féminins. Voilà.
Ça ne marche que sur les personnages féminins, bien sûr.
Non.
Ah.
Mais pour d'autres.
Mesdames.
Non, mais parce que.
Il faut qu'il y en ait pour tout le monde.
Voilà. Non, mais par exemple, là je prends l'exemple de ça enlève des fringues, mais par exemple, à des moments, ça va scanner un corps. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qui s'est blessé, qui s'est cassé la jambe. Quand tu zoomes, en fait, tu vas voir l'os. Tu dézoomes, tu vois le personnage normal.
Voilà,
tu vois où elle est cassée vraiment. Tu vas pouvoir interagir avec. Avec la croix, enfin le stick, etc. Soudainement, il va se passer un truc, tac, Snake dans la cinématique sort un bazooka, et là, c'est à toi de très rapidement tirer pour dégommer la créature. Voilà.
On voit la fracture ouverte, c'est ça que t'as dit?
Exactement.
Non, la fracture interne.
D'accord, ok. D'accord. Voilà. J'ai eu peur à un moment, là. Je croyais que c'était un jeu gore.
La fracture sociale.
Ouais, c'est un jeu mature, hein. Vraiment. Hein. Il y a des séquences dures. C'est vraiment pas. Ils l'ont fait pour que ce soit accessible au plus grand nombre, etc. Mais à la fois, ça reste un Metal Gear. C'est la guerre. C'est pas l'arrêt-guerre rigolote.
C'est la guerre.
Franchement, il est, ouais, il y a un vrai message dans le jeu. Il est assez poignant. Et alors surtout, vraiment, et c'est le point le plus important, c'est un vrai jeu. C'est-à-dire que de plus en plus avec les Metal Gear, on lui reprochait d'être de plus en plus un film interactif. Et franchement, quand on voit le 4, moi je trouvais que les 2-3 premiers chapitres étaient plutôt vraiment bons. Mais qu'après, c'était vraiment du fanservice et de la cinématique, on jouait quasiment plus, c'était vraiment dommage. Là, on n'arrête pas de jouer, même s'il y a beaucoup de cinématiques. Il y a énormément de modes de jeu. C'est structuré en niveaux, en fait, en missions.
C'est à ça que je voulais
dire. Et donc, quand on sort d'une mission, on arrive dans un menu. Là, on a la possibilité d'upgrader sa Mother Base, qui est en fait une plateforme offshore au large du Costa Rica, dans lequel en fait tous les ennemis que vous allez récupérer dans le jeu, vous leur mettez des ballons Fulton.
Il y a un côté Pokémon en fait.
C'est un peu ça. Il y a un côté Pokémon, un côté Monster Hunter, un côté plein d'autres jeux. Et puis hop, vous les balancez dans la Mother Base. Quand vous revenez dans la Mother Base, chacun a des stats comme dans les RPG. Il est fort en engineering, il est fort c'est un bon cuistot. Il est fort en technicité, etc. Et puis chacun, vous allez leur donner des rôles, les assigner, plus ou moins bons. Ça va vous donner après l'accès à des nouvelles armes qu'ils vont fabriquer. Il faut gérer un peu leur bouffe, sinon ils désertent, ils sont pas contents. Enfin, il y a tout cet aspect-là. Il y a les jeux, les modes coop, les modes multi. Enfin, il y a plein de trucs, ça n'arrête pas. C'est assez bluffant.
Ouais, donc ils ont pris un petit peu de choses de Portable Ops aussi qui était orienté là-dessus sur le fait que tu gérais des personnages, etc. Ouais,
Mais là, ils l'ont poussé vraiment très très loin. Et en termes de durée de vie, c'est quand même franchement, je crois, le MGS quasiment le plus long. Si on veut vraiment le retourner, c'est plus de 50-60 heures.
Putain,
c'est quand même colossal.
Encore un MGS à 4
jours. Et en revanche, c'est aussi le MGS le plus dur. C'est-à-dire qu'il est vraiment dur. Il n'est pas facile du tout, il faut s'accrocher. Et essentiellement,
pas seulement à cause de la jouabilité. Hein.
Non, du tout. Parce que c'est pas facile. Et parce que surtout, il pousse vachement. Toutes les missions, quelles qu'elles soient, peuvent être jouées entre 2 et 4 joueurs. On peut les faire en solo, mais c'est plus dur. Donc on est poussé à jouer à plusieurs. Donc franchement, on reviendra dessus sur le test, hein, mais la version française que Konami en exclu nous a remise, elle est super brillante, j'ai envie de dire. Ça fait du bien pour ceux qui avaient un peu peur du côté genre MGS sur PSP, faut pas avoir peur. Et pour ceux qui se disaient que la série des MGS, elle commençait à tourner un peu en rond et qu'elle devenait chiante, je crois que c'est un bon moyen de s'y remettre très clairement. Et je dis pas ça parce que j'ai vu Kojima, hein. Pour ceux qui mettent des trucs dans la tête. Ouais, Aymeric.
Moi j'avais une dernière question, monsieur Chaz. Je voulais vous demander si ils avaient fait des aménagements particuliers pour que le jeu soit jouable, genre sur des formats de petites parties, avec des temps de jeu très courts, en fait, comme tu as dit, des découpages en mission, c'est ça que tu soulignais. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements de ce type-là ou... Parce que moi ça me paraît très très important sur ce genre de console, effectivement, où t'es dans ton métro, t'en as pour 10 minutes et puis.
Ouais, c'est
voilà.
Exactement ça. S'ils l'ont coupé en mission, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un univers totalement cohérent et qu'on avance, en fait, à la fin de la mission, on recommence exactement, enfin au début de la mission d'après, exactement là où on s'est arrêté avant. Sauf que dès que tu finis une mission, t'ouvres genre une mission en coop en plus, à côté, un bonus stage sur le côté, etc. Et du coup, tu as plein de trucs qui te permettent de faire entre, franchement, 5 et 40 minutes la mission, quoi.
Ok.
De manière panachée, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Metal Gear Solid Peace Walker sur cette version française, et il sortira chez nous le 17 juin prochain. Allez, on va passer au coup de cœur et coup de gueule, et pourtant, nous en sommes déjà à 53 minutes de podcast, on n'est pas rendu. Eh ben, vous savez quoi, on va parler d'abord des news, des grosses annonces. Genre Gears of War 3 par exemple. Parce que ça y est quand même, on a des infos, on a des dates, on a eu des images, on a eu une vidéo. Qui veut en parler? Parce qu'il est prévu pour le 8 avril 2011.
Tout à fait,
Julo.
C'est ce qui a été annoncé. Donc, c'est une sortie mondiale le 8 avril prochain. Donc moi je retiendrai une chose très importante.
La blonde.
Qui vient directement du communiqué de presse. C'est qu'il s'agira d'une histoire poignante mêlant espoir, survie et fraternité. Voilà. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout est dit. Ce Gears of War sera le plus poétique des trois. Non, sérieusement, voilà, on sait que c'est... Voilà,
ça va être mort badass et what the fuck.
Mort badass, machin. Non, en fait, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce sera le troisième et dernier épisode de la trilogie. Alors, j'ai envie de rire d'avance parce que je pense qu'il va faire encore un carton monumental, mais enfin, on verra.
Mais le trailer s'est fini sur ça, la
voilà.
Fin.
Enfin, à la fois, le troisième épisode, forcément.
Mais oui, mais tu pourras utiliser le même univers pour en faire d'autres, enfin, machin. On connaît le truc.
On connaît la rengaine, hein.
On a la chance.
Donc, on en est où au niveau du scénario? Bah, y a plus qu'une seule ville humaine qui reste debout, et encore, elle va être détruite d'ici peu. C'est toujours les humains contre les locustes.
À mort les humains.
Sauf que cette fois, il y a un nouveau Strum qui est juste supra gigantesque et qui va être l'ennemi finalement des deux factions, des humains et des locustes. C'est un Lambant. Alors, je connais pas très bien la mythologie. Un Lambant, L-A-M-B-A-N-T. Donc c'est un type de monstre qui nous vient de l'espace, je pense.
Et c'est ça qui est beau.
Et finalement, on sait pas beaucoup d'autres choses, si ce n'est qu'il va y avoir des tenues Gears of War à acheter dès maintenant, si vous voulez patienter. jusqu'au 8 avril 2011, bah, vous pourrez acheter des petits objets pour vos avatars sur le Xbox Live. Non, sans blague, on a vu qu'un trailer, il est très bien le trailer. La musique est super,
avec
c'est classe.
La cendre et tout.
Et je crois qu'Emric a un détail particulier, mais très intéressant.
Je voulais souligner, tu disais que t'as ouvert en parlant d'amour, etc., de choses magnifiques, mais c'est justement c'est l'union des locustes et des humains qui est magnifique dans cette
oui,
épisode.
Bien sûr,
et c'est évident que c'est ça, il faut le souligner.
Ouais, la fraternité.
Voilà. Très bien. Il y aura donc
face à une menace commune,
une héroïne.
Et tout à fait, voilà.
Exactement,
voilà.
Julo.
Dernier Julien. Petit détail, j'allais l'oublier, heureusement que.
Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la blonde.
C'est le premier que tu as dit, évidemment, parce que dès qu'il y a une gonzesse, Raon, il est là.
Exactement.
Donc... Non, sauf quand c'est sa femme dans Alan Wake.
Voilà, c'est ça. Là, il fait demi-tour, il se casse en courant. Oui, il y aura une fille dans les squads Delta. D'accord. Donc, aux côtés de Marcus et comment il s'appelle déjà, Dom, qui vont sûrement dire
femme,
tout plein de gros mots. Voilà, maintenant, ils vont dire des gros mots devant une fille.
D'accord.
Mais j'espère que, bien que ce soit une histoire de poignante mêlant espoir, survie et fraternité, attendez, j'en ai une autre. Une histoire inoubliable de bravoure et de sacrifice aussi. Voilà.
Très bien.
Mais il y aura une fille, voilà. Et qui pourrait pour écouter. Ouais, là, j'espère, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère qu'il y aura le même langage finalement que dans le 2, parce que c'était complètement décalé. Finalement, c'était super génial. C'est ce que j'ai préféré.
Et quand même, parlons-en rapidement. Il y a un mode coop à 4.
Il y a un mode coop à 4. Très important.
À 4. En fait, tu veux les infos, je te les donne.
Heureusement que c'est toi qui as fait la news, Julo.
J'oublie tout. Je ne l'ai pas dit. Il va y avoir un mode coop à 4.
Est-ce qu'il sera gorgé de bravoure? Ah
oui, oui, par là. Voilà, mais si tu veux un peu de fraternité, il faut aussi qu'on puisse jouer à plusieurs.
Fraternidad.
Oh putain. Ce podcast est sponsorisé par Kelmar. Ah, Heineken, très bien. C'est tout, Julo?
Je vous ai dit que c'était une histoire poignante. Mais non, espoir, oui, bon. Survie et fraternité.
Le 8 avril 2011. Et il ne faut pas oublier qu'Epic ne l'a pas dévoilé encore, mais il aurait un autre jeu en préparation aussi.
Oui, il bosse sur un autre projet.
On en apprendra peut-être plus à l'E3. Autre jeu, ce qui est daté, c'est le 9 novembre 2010, donc un peu avant hein, quand même. C'est le prochain Call of Duty, Black Ops.
Développé par Treyarch.
C'est quand même un gros événement. Hein.
Ouais,
bof.
Moi j'ai trouvé qu'il a l'air pas si mal que ça. La bande annonce elle fait plus
envie
que
ça. Elle est quand même tellement syncopée que tu sais pas trop ce qui se passe.
Ouais, mais techniquement et tout, ça a l'air classe.
Ça a l'air propre, mais en même temps il récupère la tech de Infinity War, donc de ce point
t'es
de vue.
T'es sûr de ça?
Ah oui.
Moi j'ai toujours l'impression que chacun bosse dans son coin en fait.
Non, il récupère.
Pour ce qui est du design peut-être, mais au niveau technologique, il partage des trucs. Hein.
Alors on rappelle pour ceux qui seraient un peu paumés, il y a à chaque fois deux Call of Duty, il y a
une année sur deux
Infinity War, voilà. Et là pour l'instant ça risque d'être un peu chaud pour le prochain.
Il est freeze, hein, de toute façon, ils l'ont dit dans les documents au tribunal. Activision accuse justement Infinity War d'avoir dû bloquer Modern Warfare 3.
D'accord, et là c'est donc le nouveau Call of Duty par Treyarch.
Voilà, qui avait fait dans World at War le dernier. C'était le
5e.
Voilà, World at War, qui lui, donc se situait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. On a cru pendant un moment que le Black Ops en fait serait Call of Duty Vietnam et que ça se passerait pendant la guerre du Vietnam. Et apparemment, si on en croit la bande-annonce, il va y avoir plusieurs théâtres d'opération et voire plusieurs époques différentes. Et ce sera orienté sur les Black Ops, c'est-à-dire les opérations qui se passent derrière les lignes ennemies, qui ne sont pas sanctionnées officiellement par l'État.
Mais quand on regarde quand même image par image le trailer, il y a quand même plein d'infos. Il y aura effectivement des séquences au Vietnam, ça on le voit très clairement, et qui ont l'air franchement sacrément belles. Il y a les séquences en hélicoptère où on shoot à gogo avec les gens qui se battent, un petit peu comme on l'a connu dans les Modern Warfare, mais vraiment encore plus proche de l'action. Il y a des séquences stratosphériques avec les chasseurs, les F, je sais pas combien, là où on doit avoir des combinaisons spatiales.
Ah oui, les chasseurs.
Voilà, on est à 40 000 mètres du sol quand même, etc. Et qui ont l'air, si on en croit le trailer, d'être un peu probablement des phases jouables. Il y a des séquences en Sibérie, sous la neige. J'ai l'impression qu'il y a une variété quand même qui, moi, m'attire.
Ah oui, c'est incontestable.
Parce que j'étais un peu déçu de Modern Warfare 2, moi. J'ai trouvé très classique. J'ai trouvé que c'était un peu le jeu qui s'était un peu embourgeoisé. Genre, on a tellement cartonné qu'on n'ose plus trop changer la formule. Honnêtement, même sans spoiler, c'est vraiment la même trame que le premier.
C'est
quoi.
Un copier-coller du premier,
bah
c'est
sûr. Ça te rappelle Rapture, c'est bon ça.
Ouais, mais un peu, ouais, quelque part. Et je me dis, Treyarch, ils s'en sont pris tellement plein la gueule. Et effectivement, un peu à juste titre, c'est moins bien. Mais c'est pas non plus une catastrophe.
Ah non,
que
non.
Ça se trouve, ils ont peut-être envie de tout donner dans Black Ops et qu'on pourrait peut-être avoir une belle surprise.
Bah sans doute, on attendra d'en voir plus surtout parce que là c'est quand même que des petites images hyper flashy, on en voit très peu, mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer là-dedans, mater le trailer, faites quelques frises, etc., vous allez voir qu'il y a de la matière.
Ah ouais, clairement. Ouais.
Il y a de la matière, c'est sûr. Donc le 9 novembre, effectivement.
Eh ben, on en saura plus une fois de plus. À l'E3, on risque d'avoir des versions jouables. Allez, autre information d'importance pour le jeu vidéo, le plan de soutien national, hein, puisqu'il a été annoncé par Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture française, pour le jeu vidéo, avec plusieurs mesures qui ont été annoncées, des mesures assez importantes, hein, les deux prix qui seront remis au Festival du jeu vidéo, la création d'un observatoire du jeu vidéo. Traz, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Tout à fait, mais pour ça je vais prendre quelques notes parce que je t'avouerai que c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, s'est rendu dans le Nord il y a quelques semaines donc pour aller voir les studios 3D Duo et Ankama, que nous connaissons bien ici. Et donc il a annoncé plusieurs mesures visant à soutenir l'industrie du jeu vidéo, qui n'est pas moribonde, mais presque.
Bref. Non, mais qui a besoin clairement, en tout cas en France, d'un soutien, parce que c'est vrai que c'est pas facile, et surtout que la compétition avec les pays anglo-saxons, et le Canada, etc., est très dure. Hein,
est très très dure.
Au niveau des avantages fiscaux et des choses comme ça.
Merci aux taxes en passant, mais c'est pas grave. Bref. Et donc, pour cela, plusieurs mesures ont été annoncées. Donc. Déjà, il y aura une valorisation du jeu vidéo, ce qui n'est pas rien par le ministère de la Culture. Donc c'est une réflexion qui porterait sur l'histoire, les techniques et l'actualité, et qui s'inscrira dans une démarche patrimoniale, carrément. Donc dit comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça veut dire qu'effectivement le ministère de la Culture englobe le jeu vidéo comme étant presque de l'art, quoi. Comme étant un vrai un art reconnu en tant que tel, comme le cinéma, la littérature, etc.
Ça rejoint un peu cet élan, en fait, justement de reconnaissance du jeu vidéo qu'on est en train de voir depuis quelques mois et qui est en train de se manifester plus en plus précisément. Et voilà, dans le cadre à part entière, culture.
Tout à fait. Ensuite, donc, la création d'un observatoire du jeu vidéo, donc un partenariat avec le syndicat national du jeu vidéo. Donc, moi, on est sûr qu'il n'y aura pas trop de bêtises en rapport justement avec tout ce qui touche le jeu vidéo. Et le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Donc c'est à travers justement cette création de l'observatoire du jeu vidéo que l'on verra justement les habitudes des joueurs français, notamment comment les appréhender, etc.
Est-ce qu'ils sont tous fous?
Voilà, et les premiers résultats sont attendus justement pour la fin du mois de juin. Donc pour faire, j'imagine, une espèce d'audit du jeu vidéo en France,
savoir
le comportement des gens, etc., comment ça se passe.
Je trouve ça génial. Franchement, Frédéric Mitterrand, il était passé au précédent festival du jeu vidéo, il s'était éclaté à Guitar Hero, il avait été présent partout. Il œuvre vraiment, je trouve, avec sincérité, c'est quelqu'un de culture, mine de rien, et qui s'intéresse comme ça aux jeux vidéo, et que finalement, il fasse avancer les choses. On dit souvent, les politiques, ouais, ils n'ont rien à foutre, ils sont là autour d'ivoire. Bah, là, il fait concrètement avancer les choses, et je trouve que sur une période de 12 mois, il
n'y
a jamais eu autant de choses qui se sont faites.
et qu'il est là depuis pas très longtemps finalement.
Bah non. Donc
il a fallu attendre qu'il arrive à ce ministère pour que ça bouge vraiment.
Et j'ai envie de dire, c'est presque même son ministère de la culture pour l'instant, la chose sur laquelle il se concentre le plus, c'est le jeu vidéo. Très clairement. Donc c'est vraiment, je trouve, une très très bonne chose. On l'a vu hein, avec l'ouverture, on va y revenir, bah, on peut peut-être même le faire là maintenant tout de suite. Hein, l'ouverture du musée du jeu vidéo à la Grande Arche de la Défense. Emeric, tu étais présent. On le sait que maintenant, il y a un problème. Il y a l'ascenseur qui a lâché et donc c'est fermé. Pour au moins 4, enfin au moins jusqu'à 4 mois potentiellement, on espère que ça rouvrira avant. Il y a eu pas mal de choses. On va d'abord parler de ce musée, ce qu'on en a pensé, puis après on va parler un petit peu des problèmes avec MO5.
Moi je voudrais justement plutôt commencer dans le sens inverse si possible, parce que ces problèmes avec MO5 et Alerte Orange, tout ça, enfin pour moi c'est à part. Je comprends qu'il y a un problème si tu veux là-dessus, mais il faut pas confondre ce problème-là et l'ouverture de ce musée. Il y a des gens qui vraiment confondent les deux, et quelque part ça joue pas en faveur.
C'est pas la guerre, il faut que les gens comprennent ça.
Voilà, c'est un désaccord.
C'est un désaccord, ils sont clairement pas d'accord sur la manière de le faire, la manière dont ça a été fait, ils s'entendent plus ou moins bien. Ouais. C'est une réalité, certes, mais en tout cas, ça avait le mérite d'exister, et MO5 va de son côté faire d'autres choses aussi.
Exactement, mais c'est ça. Et alors, ce qui est beau quand même, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir quelque chose avec l'appellation musée du jeu vidéo, c'est quand même une reconnaissance qu'on attendait depuis super longtemps. C'est un événement qui est majeur, même si la taille de la chose n'est pas majeure, c'est vrai, mais c'est quand même quelque chose de pour moi qui est fondamental et très important au regard de la personne qui ne connaît pas les jeux vidéo. Moi je trouve ça génial. Après ce musée a des défauts, c'est évident, voilà, il est de petite taille, c'est vrai, ça manque peut-être un petit peu d'infos sur plein de choses. Maintenant c'est quand même la première fois qu'on peut voir autant de machines autant de machines avec des explications à côté, qu'on voit les premiers trucs. Enfin, moi, ça m'a fait un effet bof à titre personnel. Maintenant, si on court et qu'on s'arrête pas sur chaque machine, effectivement, il y en a pour 10 minutes, c'est vrai.
Moi, je reviendrai juste, et je trouve que c'est très juste ce que tu viens de dire, et c'est assez symptomatique. C'est moi ce que je reproche à ce musée, qui, à mon sens, j'appellerais plutôt exposition.
Oui, c'est
il y a des choses à voir, mais il n'y a pas de choses à jouer, ou très très peu. Il y a quelques bornes d'arcade. Voilà, mais pour moi, un musée du jeu vidéo en tant que tel se doit d'être un lieu, après la taille, quelque part je m'en fiche un peu, un lieu où tu peux jouer, où tu peux découvrir quels ont été les titres majeurs de certaines de ces machines, puisque effectivement, voir les consoles, qui sont quand même des objets de plastique pour le grand public, franchement, entre la Jaguar, la Vectrex, l'Atari, etc., bon bah voir qu'elles sont noires, jaunes, vertes, grandes, carrées, je sais pas quoi, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est
les jeux.
Alors moi je voudrais te répondre à ça, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais je veux dire, en France on a déjà l'esprit très ronchon, c'est quelque chose de très commun chez le français. Je veux dire un truc, il y a un autre très commun aussi en France, c'est que tout ce qu'on donne à portée de main aux gens est souvent détruit et mis dans un sale état. Donc je suis pas surpris qu'ils se soient pas emmerdés à mettre des manettes de peur qu'elles soient détruites, d'être obligé d'avoir un service de sécurité sur chacune des machines, etc. C'était pas possible. Donc je veux dire, il y a un moment aussi où faut être logique et cohérent. C'est déjà un grand pas pour moi, ça, voilà.
Bien sûr. Non mais là-dessus t'as clairement raison. En tout cas, et puis on le sait, hein, puisqu'on on a parlé avec eux, hein, les responsables d'Alerte Orange, de ce musée. C'est aussi un musée, alors là ils sont un peu dans la merde avec le problème de l'ascenseur, mais qui est amené à évoluer. C'est-à-dire que dès une semaine, deux semaines après le lancement du musée, déjà le musée faisait un peu plus de taille, avait été réagencé un petit peu.
Ils ont doublé la surface, je crois d'ailleurs, non ?
Un petit peu moins, mais c'était déjà passé à plus de 300 mètres carrés pour essayer de gérer un petit peu mieux l'aspect scénique qui, franchement, à son ouverture, était un petit peu limité.
Tout à fait, alors on va faire des efforts de ce côté-là. Il y a aussi la chose qu'il faut voir, c'est que le musée a été présenté à 10 euros, enfin l'entrée à 10 euros, c'est pas exactement ça. Hein. C'est que c'est 10 euros pour avoir l'accès en haut de l'arche, et que logiquement le musée ne devrait pas être payant. Donc c'est ça qu'il faut
comprendre. Mais il est gratuit.
Voilà.
Dans les faits, il est gratuit. Exactement. Tu payes l'accès en fait à cet étage.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que les gens font la formation 10 euros. Et voilà, il y a l'accès au musée de l'informatique. Tu as l'accès à la vue qui est superbe. Enfin, moi, je la trouve superbe. Les gens qui n'aiment pas, ok. Mais... Donc, je trouve que l'accès est quand même plutôt déjà sympa. Pas si cher que ça pour ce que c'est. Et si tu prends l'ensemble de la chose, ça concerne l'Arche de la Défense, ces 10 euros, si tu veux. Ça ne concerne pas forcément le musée. Donc, il ne faut pas faire associer ces 10 euros et le musée.
Oui, mais ça reste un problème pour le public qui est de toute façon, quoi qu'il arrive, obligé de payer cet accès pour voir le musée. Tu ne peux pas profiter de ce musée gratuit.
Tu peux pas prendre l'escalier.
C'est comme. Non mais c'est comme un jeu concours avec obligation d'achat. Voilà.
Non mais je te dis pas qu'il faut pas le prendre en compte. Je te dis juste qu'il faut pas le confondre non plus les choses quoi. Voilà. Et l'effort qui a été fait déjà là est très important, je trouve. Et vraiment, il y a des choses vraiment super à voir que vous ne verrez nulle part ailleurs pour le moment. Voilà.
Et ce qui finalement.
Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est gratuit pour les moins de
6 ans.
6 ans, je crois.
Voilà. 6 ans.
Et puis... les titulaires de la carte de presse.
Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que du coup, finalement, bah, ça fait aussi résonner pas mal de choses et que même les personnes qui sont pas contents, finalement, se mobilisent peut-être encore un peu plus. Kemo 5, du coup, alors que ça fait des années et des années qu'ils cherchent à faire des expositions, voire un musée, puisque c'est à la base un petit peu leur idée quand même. Et bah ça y est, il y a
Musée aux Games,
l'émulation au Games qui arrive.
Voilà, c'est le truc qui effectivement, ça amène la chose un petit peu plus en avant et ça fait avancer le Schmilblick et ça, ça c'est joli, voilà. Et donc moi je pense que c'est un grand pas pour le joueur. Voilà.
Exactement.
Mine de rien, symbolique.
Mais ouais. C'est vrai que les initiatives se multiplient.
Non mais c'est dommage quand même, tu peux pas t'empêcher de penser que c'est dommage qu'ils aient pas fait ça ensemble quoi. Parce que ça aurait été vraiment le meilleur des mondes, parce que les autres, t'as l'impression qu'ils ont la com, mais pas forcément tout ce qui suit. Les autres, t'as l'impression qu'ils ont qu'ils ont tout le matos,
toute la passion,
mais moins de com. Ils étaient faits pour travailler ensemble quand même, peut-être. On connaît pas les détails de tout ça, mais moi ce que je trouve, enfin on les connaît.
On a pas trop le droit. Enfin,
non, mais c'est pas forcément alimenté. Le sujet et tout ça. Mais
c'est ça qui est quand même triste quelque part aussi. Tu vois, c'est ça.
On aurait pu avoir un musée qui tue quoi.
Voilà, on a une possibilité de voir des choses nouvelles, d'offrir des choses nouvelles aux gens qui connaissent pas les jeux vidéo ou même à ceux qui connaissent.
Mais ça serait jamais la polémique.
Il faut qu'il y ait une polémique, il faut qu'on chamaille. C'est quand même super dommage. Ça, ouais, ça, c'est moi, dommage. C'est triste. D'ailleurs, c'est mon coup de gueule. Je trouve ça super triste d'avoir cette espèce de lutte. En plus, tout le monde s'en mêle sans vraiment savoir de quoi il retourne. Donc voilà, c'est dommage.
Restant en tous les cas sur l'existence de ces initiatives.
Voilà, et puis on espère surtout que l'ascenseur va être réparé. Parce que se faire une idée, il faut aussi y aller.
Quand t'as l'ascenseur social.
Voilà. Allez, autre information essentielle du mois d'avril, 40 millions de Xbox 360 vendus dans le monde. C'est un record. La première Xbox n'avait absolument pas fait ça, donc c'est la preuve quand même de l'implantation qui s'accélère du côté de Microsoft avec sa console de salon next-gen. Dans le même temps, l'annonce que quand même 42% de ces machines sont défectueuses. Et ça c'est quand même vachement moins bien.
Mais ça vient d'où cette annonce ?
Comment ?
C'est quoi cette annonce ?
Bah, c'est une étude très sérieuse qui a été faite en Angleterre.
Mais d'accord, mais je connais pas exactement les tenants et les aboutissants.
Tu veux me faire chier et me dire que j'ai pas noté le truc ? Tu vas aller sur Gameblog, 42% de radio, c'est 42% défectueuse. Voilà. Donc c'était une vraie analyse, etc. Bah,
en même temps, on l'a vécu en direct d'ici.
C'est
hein,
ça. Qui a eu un Ring of Death alors voilà. Emric, Julo, Poufy.
Rien que la rédaction.
On en a eu deux, donc ça fait
3. On a eu deux debugs et une retail.
6 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc normalement
moi j'en avais jamais vu jusqu'à arriver à Gameblog, je tiens à le dire quand même.
Tu crois qu'on te porte la poisse, c'est ça ?
Je sais pas, mais à chaque fois que je touche une de vos consoles, ça merdouille.
C'est vrai que c'est toi qui as flingué la dernière debug.
Faut arrêter de me faire bosser. Enfin, moi j'ai
on va y réfléchir.
Chez un développeur,
ouais, bien merci, je vous laisse, bonne soirée.
Pas très longtemps, 100% de leur Xbox ont fait éroder. Ouais, donc voilà, hein, ça pour ceux qui disent non, mais attendez, c'est un mensonge.
Moi je pense que ça prend plus ou moins de temps selon les consoles, mais j'ai l'impression que 100% des consoles le font un jour ou l'autre.
Moi pour l'instant, jamais, je touche du bois, regardez là, du bois laqué. Mais bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, je trouve quand même. Mm-hmm. Quasiment la moitié des Xbox.
Pour un produit grand public de cet ordre-là et à ce prix, c'est honnêtement.
C'est juste de l'arnaque, hein, quelque part. Hein, je suis désolé. Mais
tout finit par. Comme disait Michael Moore, n'importe quoi. Peter Moore. Ouais.
Les choses, ça casse.
À l'époque où il était encore chez Microsoft, you know, things break.
Certes, mais il y en a qui se cassent vachement plus vite que d'autres, hein, quand même. Hein.
Mais regarde, la première PlayStation, tout le monde avait été obligé d'y jouer sur la tranche, et puis au bout d'un moment, elle lâchait aussi. Donc bon.
La mienne, elle a jamais lâché. Pourtant, j'ai joué des siècles dessus.
Ta première PlayStation ?
Elle a jamais lâché. Jamais.
T'es un erreur quand même.
Si, il fallait régler la lentille, de temps en temps.
Régler une lentille, c'est sûr que c'est pas la même chose que changer une carte.
Qu'un truc qui pète et tu peux plus jamais y jouer. Quelqu'un qui vient chez toi. Et que ça... Alors après, ils ont un CV
qui est
génial.
C'est ce que j'allais dire. Ils ont un très bon
CV. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin bon, heureusement, tu joues pas.
On a tous mis nos PS1 quand même à l'horizon.
C'est vrai. Ça, je te l'accorde.
Du coup, quand ils ont fait la PS2, ils ont dit allez, le problème est réglé.
Et on va leur faire payer un pied.
Allez, autre information essentielle de ce mois d'avril, la Neo Geo qui fête ses 20 ans. On va malheureusement passer assez
Happy
vite
birthday.
Parce que le temps nous prend et qu'il y a encore plein d'infos.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
C'est flippant.
Et bah écoute, tout est dit dans la news, donc voilà, je veux dire, c'est
plateforme mythique.
Plateforme mythique.
Du jeu de baston et de l'arcade.
Ouais. Alors, avec des jeux à des prix exorbitants, une console à des prix exorbitants, effectivement, c'était l'élite de l'arcade à la
c'était
maison.
C'était tellement
la console. Attends, la console n'était pas plus chère que les autres consoles, c'est les cartouches qui étaient
très chères. 1000 francs les cartouches.
Et donc, voire
1200 beaucoup plus, beaucoup plus.
1200, non, ça dépendait des jeux, mais. Mais
ça dépend, ouais, t'as encore des jeux cotés à des prix absolument astronomiques. Aujourd'hui, surtout, ouais, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque où on découvrait Street Fighter 2 et tout le monde s'est merveillé devant Street Fighter sur Super NES, il y a des gens qui jouaient là-dessus. Et c'était vraiment l'arcade à la maison. Et c'était hyper impressionnant. Alors,
King of Fighter chez Super Potato à Tokyo, maintenant il est à, je crois, 42, même pas 42 000 yens.
Lequel?
42. J'en sais rien, je connais rien.
42 euros.
40 euros.
40 euros.
40 euros, le prix d'un jeu.
Alors effectivement, il y a eu de la décote aussi sur les cartouches ces dernières années.
Non, 4200 yens.
Ça dépend quelles éditions, il y en a qui sont vraiment très rares. Bon, bref.
Donc voilà. Et
Fantastique surtout, machine.
Ils ont ouvert, voilà, ils ont ouvert un musée virtuel de la Neo Geo, voilà, mm-hmm, qui lui n'est pas payant. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez aller voir ça sur la news. Voilà.
Effectivement, la Neo Geo fête ses 20 ans. Alléluia. Assassin's Creed et Driver, des suites qui visiblement semblent de plus en plus calées, qu'on devrait découvrir vraisemblablement lors de l'E3 du côté de chez Ubisoft, avec des noms. Assassin's Creed Brotherhood, qui en anglais nous donne
fraternité,
ouais,
fraternidad,
voilà. La fraternité, donc la bravoure, etc. Hein, Julo, cher Gears of War. Et de son côté, Driver, qui s'appellerait normalement Driver San Francisco, qui donnerait une petite indication sur le lieu où il se déroulerait et...
ou pas,
Moscou.
Voilà.
Moscou.
Et à la fois c'est une ville qui est quand même prête à faire moult cascades, ça pourrait, oui, être sympa. Autre information, l'arrivée d'un Yakuza sur PSP, et finalement après Dragon Quest, le nouvel épisode qui est donc arrivé sur DS, après Metal Gear, le vrai nouvel épisode qui arrive sur PSP,
suite au succès de Monster Hunter lui-même, qui a vraiment connu gros boom sur PSP, voilà.
C'est la nouvelle preuve que les grosses séries aiment de plus en plus les portables.
Bah ouais, Project K, donc c'est son nom pour l'instant. Ryoga Gotoku ou Yakuza devrait être dans le sous-titre ou dans le titre, on verra. C'est un nouveau personnage, c'est un spin-off, sauf que contrairement au dernier spin-off, ça va se passer de nos jours, toujours à Tokyo, etc., avec un nouveau personnage. On sait que les scènes cinématiques seront plus typées manga parce qu'on vise un public plus jeune aussi à chaque fois qu'on va sur PSP. Metal Gear, c'est pareil. On change les cinématiques un petit peu, on change un peu le ton, on change le gameplay évidemment. Donc il faut s'attendre à tout un tas de nouveautés.
On rajoute du online à gogo.
Nagoshi, donc qui participe beaucoup plus à cet épisode finalement qu'aux autres, parce qu'il l'a écrit scénaristiquement, etc. A dit qu'il serait beaucoup plus adapté à ce qu'on attend d'une console portable, évidemment ça veut dire, à mon avis,
du multijeu hein, plus que du online, parce qu'en fait c'est pas vraiment du online,
oui tout à fait,
la c'est connexion
du...
wifi,
ouais,
ad hoc,
du ad hoc, sauf qu'avec la PS3 tu peux maintenant jouer en ligne avec les jeux ad hoc.
Ok, autre annonce majeure du côté des portables, c'est l'annonce de Nintendo de Pokémon Black and White. Et là, Julo, forcément, outrase, hein, là au choix, je suis obligé de vous regarder.
Alors qui fait black et qui fait white?
Alors Black and White, donc c'est un vrai nouvel épisode, contrairement au dernier qui est sorti, qui était un remake,
qui était un faux.
Là, ça va être en 3D. Alors, ça va sortir à l'automne au Japon. Il y a une date sur Amazon qui est sortie. On avait fait une news là-dessus qui parlait du 30 mars 2011 chez nous.
Ça ressemble plus à une fin d'année fiscale, c'est un peu balancée comme ça.
Voilà.
Entre janvier et mars, on va dire. Hop.
Tout à fait. Et on sait pas grand chose dessus en réalité pour l'instant, c'est assez mystérieux. On sait juste que c'est un nouvel épisode et qu'enfin ils vont aller un peu de l'avant, et on sait bien que notre Tiger National qui a fait le test du dernier épisode était assez
N'en déplaise aux Pokémaniacs,
N'en déplaise aux Pokémaniacs, ça tourne en rond quand même, et là ça a l'air d'être un peu plus novateur, donc on verra.
Ok, autre série majeure, en tout cas fut un temps, qui devrait revenir, c'est Silent Hill, qui a été annoncé, développé
avec un vrai épisode HD, c'est ça,
un vrai épisode HD. Alors je suis un peu déçu, parce que moi j'avais vraiment aimé Shattered Memories, le précédent épisode développé par Climax, qui avait des défauts très clairement, mais qui est de loin le plus intéressant depuis Silent Hill 2 en termes de fond, de promesses, d'émotions.
Il faut que j'y joue à ce jeu, merde.
Plus que l'horreur, l'apanage des Silent Hill.
Il souffrait de quelques problèmes de maniabilité quand même.
Par exemple. et ben là, en fait, ça va pas du tout être développé par eux, mais par un jeune développeur tchèque du nom de Vatra Games. Voilà. Mais alors, on sait pas grand chose dessus. Et non, moi non plus. Vatra Games. Et puis le truc, c'est que il y a eu des rumeurs qui voudraient que peut-être que le jeu serait un FPS, etc. Alors bon, moi forcément,
rapprochant
un peu de Konami là ces derniers jours, après 12 heures de vol quand même, j'ai posé des questions. Tu vois.
Oui.
et bah a priori, ils en ont jamais entendu parler, hein, que ce serait FPS. Ils comprennent pas d'où c'est sorti.
Encore une des grosses rumeurs de l'internet moderne.
Voilà. Enfin, à la fois, c'est venu quand même un petit peu sur une offre d'embauche de Vatra Games concernant Silent Hill. Mais peut-être qu'il y aurait une vue subjective à l'intérieur.
En fait, comme c'est des c'est des gars de l'Europe de l'Est. Mm-hmm. Ils prennent la thune de Konami pour faire un Silent Hill pour Rav, ouais. Et en fait, ils embauchent pour faire un FPS qui va cartonner sur PC. Voilà.
Bah, espérons malins, en tout cas que ce soit bien. Espérons peut-être aussi en voir un petit peu plus à l'E3, parce que Silent Hill est une série qui mériterait de revenir un petit peu sur le devant de la scène, à l'image d'un Castlevania qui a l'air quand même assez charmé, et on l'attend lui aussi de pied ferme à l'E3. Parmi les jeux qui sembleraient devoir arriver prochainement, il y a Infamous 2, dont Sony a déposé le domaine internet il y a quelques temps.
Donc mm-hmm. Ça, c'est Infamous 2 thegame.com.
Voilà, c'est quand même un gros indice.
Puis c'était pas, on savait oui. qu'ils étaient en train de le faire en fait. Mm-hmm. Il sera peut-être présenté à l'E3 aussi d'ailleurs, on verra.
Il y a Fear 3 qui lui a été officiellement annoncé avec une bande-annonce terrorisante.
Super bien foutu ouais. En plus. Donc Alma aurait de nouveau un gamin. Mm-hmm.
Est-ce qu'elle reviendra en balançoire sur un Gameblog?
Bah peut-être, exact. J'en sais rien, on verra à ce moment-là.
En tout cas, elle m'a fait flipper moi.
Tu fais flipper Alma, oui, mais c'est normal. Elle
encore, un trailer en image réelle.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire.
Pardon, j'étais ailleurs.
voilà. Autre jeu aussi, Hitman 5. Apparemment, IO Interactive serait dessus depuis plus de 2 ans.
Ouais, mais alors il n'y a rien d'officiel qui a filtré. Et à l'heure où vous écouterez ce podcast, je serai là, justement chez eux.
Je serai en enfer.
Donc j'essaierai de fureter et d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais en tous les cas, c'est sûr que vu la taille de ce développeur, qui a quand même une tour à Copenhague énorme avec plein de projets en plus de leur Canine Inch 2, il y a de fortes chances pour Hitman 5 soit effectivement déjà bien avancé. Mmh.
Toujours dans la série des jeux qui devraient arriver un de ces jours, Uncharted 3, c'est Nolan North, le doubleur de
Drake.
Nathan Drake, qui clairement l'a sous-entendu.
Qui a fait une gaffe.
En disant qu'il n'a pas le droit de le dire, mais qu'à la fois il nous le dit.
Ouais, vous machin, savez quoi,
bon, voilà, quoi
ouais. Je sais rien, mais je dirais tout.
Voilà, bon, enfin, à la fois c'est un peu un secret de polichinelle, après reste à savoir quand. Maintenant. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi un Uncharted sur PSP, moi, le 3.
Oui,
ça, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps. Et...
Mais ce sera peut-être pas Naughty Dog.
Ah non, je pense pas non plus.
Non, ils sont en vacances, là.
vraiment, j'ai vraiment l'impression que les développeurs MGS, pour en avoir parlé avec eux, ils l'ont quand même développé en un an. Quand on voit la richesse du contenu qui a juste rien à voir avec celle d'MGS 4, au-delà du fait que c'est sûr que visuellement, ça a moins de gueule qu'un jeu HD qui pète sur une télé.
Ouais, en même temps, c'est pas laid pour une PSP.
Non, franchement,
c'est
vraiment pas laid pour la HD PSP. Pour PSP, quand même. Hein.
Voilà, ça claque. Hein. Mais c'est pas la même. Pour nous, occidentaux, on rêverait tous de que les jeux soient sur console. Hein. Mais ça se vend plus. Ça prend moins de temps à développer, ça marche vachement bien.
Quand tu mets des ressources de jeux next-gen sur un truc PSP, effectivement...
Ça déboîte. Bah ouais. Donc l'industrie est un peu en train de changer à ce niveau-là.
Et puis ils sont très proches de Ready at Dawn, qui connaissent très bien la PSP.
Et qui devraient annoncer beaucoup de choses à l'E3.
Ouais, mais notamment leur propre IP next-gen. Enfin, on appelle ça encore la next-gen, je comprends toujours pas pourquoi, mais bon...
Parce que t'es un con. Il va falloir arrêter, hein. Ouais. Autre information de poids, cette fois-ci elle concerne Apple. Alors on va pas vous reparler des fuites concernant l'iPhone 4, etc. Qui a l'air vachement bien. Néanmoins, ce qui nous intéresse fondamentalement en tant que joueur, et si on vous en parle aussi de l'iPhone souvent sur Gameblog, c'est parce que c'est une plateforme de jeu de plus en plus importante. Mm-hmm. C'est l'iPhone OS 4 qui, justement, marque une vraie avancée dans le domaine du jeu vidéo avec le Game Center.
C'est carrément des fonctionnalités comparables en fait à celles du Xbox Live. Avec du matchmaking, avec de quoi organiser des parties en ligne, garder des leaderboards, etc. Et entretenir une communauté de joueurs autour des jeux iPhone qui ont donc accès à cette plateforme au travers du nouveau SDK de l'iPhone 4. Donc c'est effectivement, puisque c'est Apple qui entretient ce service en parallèle de l'iTunes, c'est une marque, Apple ne néglige pas du tout les jeux sur cette plateforme-là. Et évidemment, ils ont raison vu les dizaines de milliers de jeux qu'il y a.
Et l'iPad aussi, d'ailleurs. 40%, ouais, c'est ce que j'allais dire, 40% des applications en cours pour l'iPad sont des jeux. Ouais. C'est énormissime.
C'est énorme.
Bien sûr, mais les gens jouent plus qu'autre chose sur la plupart de ces plateformes-là. Sur Facebook, c'est pareil, 66% des pages visitées sont des pages liées à des jeux.
Vous avez vu, on a tous un chiffre intéressant.
Oui. C'était le quart d'heure chiffre.
Et on peut le continuer, hein, parce que l'iPhone OS 4, en fait, va équiper à terme l'iPad, l'iPod Touch et donc l'iPhone. Et si vous cumulez les ventes de ces trois appareils, c'est quand même quasiment plus de 100 millions de machines. Mm. Et du coup, c'est l'ADS, tout de suite. Non, je crois que c'est même plus, hein. Je crois qu'ils sont même au-delà encore.
Peut-être, mais le truc, c'est que comme il y a beaucoup d'Apple addicts, tu peux être sûr qu'il y a beaucoup d'iPad chez des gens qui ont déjà des iPhones. Mais bon.
C'est vrai. Voilà. J'avais envie de laisser un petit blanc comme ça.
Un petit blanc de réflexion.
Pour que l'histoire te donne raison. L'une des dernières informations, c'est Monsieur Camilla, le créateur de Bayonetta dernièrement, moi qui m'a mis une baffe mais monumentale, hein. J'ai
T'es
juste adoré alors que je m'y attendais pas. J'avais le... au début trouvé ça un peu vulgaire. Non mais honnêtement elle m'attirait pas plus que ça, je savais pas.
Elle a une
en fait,
petite
c'est
tête quand même.
Non non mais la nana honnêtement moi je la trouve pas sexy, mais alors son jeu par contre qu'est-ce qu'il est,
son jeu de
qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est riche, etc. Et bah Camilla il supplie Nintendo de lui laisser le développement de, du prochain Star Fox.
Mais génial.
Il dit mais putain mais qu'est-ce que je rêverais qu'il y ait Nintendo qui arrive chez nous à Platinum Games avec des flingues et qui nous les braque sur la gueule en disant tu dois t'occuper de Star Fox. Je trouve ça génial.
Oui. Ah ouais. déjà comment il dit ça alors qu'un mec normal aurait dit j'aimerais bien que Nintendo oui. demande de faire Star Fox.
Moi je veux qu'on me braque.
Ouais. Il veut qu'on me braque.
Déboîtez-moi la gueule et dites-moi de le faire.
Ah moi je veux voir deux jeux Nintendo, c'est Star Fox et F-Zero. Donc Star Fox par Camilla, ça peut être bien. Moi ça m'excite.
Ça peut être bien déjà.
Alors à la fois la séquence de shoot dans Bayonetta n'a... c'est pas le meilleur moment du jeu.
Oui c'est vrai.
Faut l'avouer.
C'est ce que tout le monde dit.
Mais à la fois il était pas non plus totalement hallucide nul et puis c'était pas fait pour quoi.
Il a dit hallucide.
Raon, est-ce que tu veux revenir rapidement sur les Bethesda's Days?
Oui.
Auquel tu as participé dans un château magnifique
dans l'Oise.
Qu'est-ce que tu y as vu?
Alors j'y ai vu Brink, j'y ai vu Rage, j'y ai vu Fallout New Vegas et Until the Demon Forge, c'est-à-dire trois titres post-apocalyptiques et un de Dark Fantasy. Voilà, pour résumer. Donc New Vegas, ça va être Fallout 3 avec beaucoup d'aménagements, une nouvelle aventure, etc. Et quelques trucs intéressants.
Il y a un peu en d'héroïsme plus, et de fraternité là-dedans ou...
Je pense. Alors, mais c'est... on attendra une version finale pour en être persuadé. Brink, donc, qui est le shooter en ligne ou pas en ligne, mais qui est quand même très orienté en ligne, deux splash damage, les gens qui ont fait Enemy Territory Quake Wars se présentent vraiment sous les meilleurs auspices. Ça a l'air particulièrement bien foutu. Les personnages ont trop la classe, c'est super beau, il y a plein de bonnes idées.
Non, c'était pas mal Quake Wars.
C'était très bien, mais c'était très compliqué.
Et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui y jouait, c'est ça le souci. Non,
ouais, effectivement. Alors que Brink, effectivement, a clairement appris de ça et propose des choses similaires à ce que tu peux trouver dans un Quake Wars, mais beaucoup plus agressives, mieux arrangées, etc. Avec un système de mission dynamique qui oblige les gens vraiment, puisque c'est comme ça que tu trouves des XP, donc que tu augmentes ton personnage, qui les oblige à jouer de manière correcte en équipe. Donc c'est vraiment bien pensé au niveau du game design à ce niveau-là. Rage, donc alors titre qu'on surveille en fait
c'est
finalement depuis longtemps,
Carmack.
Voilà, c'est le premier jeu. Enfin, c'est Tim Willits qui est chez ID Software qui développe, qui game director là-dessus, et c'est le premier jeu en fait qui devrait utiliser l'ID Tech 5, le fameux nouveau moteur de Carmack. C'est la première fois qu'on le voyait sur Xbox 360, puisqu'à l'E3 il nous avait montré une version qui tournait sur un gros PC qui tâche. Ça tourne bien.
C'est pareil, ça
c'est super
un,
joli.
C'est un jeu qui commence à dater maintenant, Rage.
Graphiquement non.
Non mais non, ce que je veux dire c'est que ça fait un bout de temps
qu'il a été annoncé. Ça fait un bout de temps qu'il a été annoncé, mais tu sais, ID c'est comme toutes ces boîtes là, c'est
mais
when it's done.
Oui, ça a l'air super intéressant, c'est surtout une démo technique en fait, non?
Non, le jeu a l'air vraiment intéressant parce que ça reste un FPS mais avec des courses de bagnole, avec un monde ouvert, avec des quêtes, etc. Franchement c'est bien foutu, ça donne envie d'être dedans, mais c'est vrai que c'est pas original en soi, c'est un monde post-apocalyptique, tu tires sur des mutants. Voilà, en gros si tu veux comme ça, c'est pas méga beau,
même pas.
C'est très joli. En fait, surtout dans les détails, c'est-à-dire qu'effectivement t'as pas deux fois, t'as pas l'impression de revoir deux fois le même truc. Parce qu'il n'y a jamais deux fois le même truc.
C'est la particularité du moteur.
C'est les gigatextures.
C'est les fameux méga textures. Voilà. Il n'y a rien de procédural, il n'y a rien de répété.
Donc, quoi, il n'y a rien de procédural?
Non, en
réalité. Waouh!
Tout
c'est marrant parce qu'à Tokyo, on a parlé que de ça aussi pendant un repas. On était mort de rire. Tout le monde dit procédural et ils ne comprenaient pas pourquoi.
Et donc, effectivement, ça donne un cachet particulier. Tu as vraiment l'impression d'être dans un vrai monde cohérent. Où chaque caillasse est indépendante des autres, quoi. Enfin, donc ça change pas fondamentalement tout.
Ah, mais leur moteur, ils vont le vendre à tout le monde et puis ils vont.
Non, Heidi, non. Non, Heidi, c'est pas le genre de la maison. Ils vendent à très peu de personnes. Ils le font exploiter par d'autres studios qu'ils connaissent très bien, mais en général, c'est pas Unreal Engine ou machin. Donc bon, voilà. Et ça y est, j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc il y a quand même une gamme assez forte chez Bethesda, même si c'est pas non plus ultra original dans les thèmes. Ou dans le gameplay. Ah non, j'ai pas parlé d'Hunted en fait. Hunted, c'est le nouveau jeu d'Inxile, qui est une boîte qui a été fondée par Brian Fargo, qui est le créateur historique d'Interplay. Mm-hmm. Un grand monsieur qui a son nom en générique de choses comme Fallout, Black Isle et tout ça. Mm-hmm. Et ça ressemble en fait à Gears of War en coop, à une matinée de RPG dans un monde Dark Fantasy. Voilà.
D'accord. Mais sans la bravoure et la fraternité.
Je sais pas, demande à Julo. Parce que...
On a perdu Julo depuis le début de ce podcast.
Julo, il est à l'ouest d'Eden là.
Il répond pas, c'est ça. Il met le micro à sa bouche, il fait un petit sourire, il parle plus.
Pauvre.
Non, mais ils sont vachement occupés en fait avec les buvais tout à l'heure à se foutre de ma gueule.
Les paroles de Raon. Il n'y a pas que les paroles que tu buvais. Allez, on va conclure ce podcast avec toi, Traz, puisque tu vas nous parler de ton meilleur pote, Arnold Schwarzenegger.
Oui, Schwarzy fait encore des siennes. Rappelez-vous, depuis 2005. Gouverneur, donc de...
Gouverneur, ouais.
Le gouverneur de l'État de Californie cherche à faire interdire les jeux vidéo violents au moins de 18 ans. On dit comme ça, ça
pour un mec qui a fait que des films poétiques.
C'est ça. Exactement. C'est un peu ça. C'est le premier problème, c'est que tu dis attends, mec,
de gueule, c'est lancé des bombes, alors bon, ça va quoi.
Donc il a fait passer une loi justement pour arriver à ses fins. Sauf que cette loi a été annulée en février 2009. Évidemment, comme c'est un warrior, ben, il se laisse pas faire, hein, il continue de plus belle.
Il a dit I'll be back,
je crois. Et cette fois, effectivement, I'll be back. Et là, il va carrément faire appel à la Cour suprême des États-Unis. Donc, c'est le dernier recours possible.
Constitutionnellement.
Pour, voilà, exactement. Raon, tu es trop puissant.
C'est vrai.
Et donc, qui vient d'annoncer le 26 avril dernier qu'ils allaient jeter un œil. Et ça sera examiné. Et le verdict, entre guillemets, sera rendu en octobre prochain. Et effectivement, si ça passe, ben, au niveau national.
Ça fait
pourrait,
jurisprudence.
Ça pourrait faire jurisprudence, donc ça risque d'être
chaud, bouillant.
Je rappelle que Arnold Schwarzenegger est donc gouverneur de Californie, État qui est en banqueroute totale.
Exactement.
Mais il préfère s'occuper des jeux vidéo violents. C'est bien, c'est bien.
Je pense qu'il faut en vendre moins, histoire qu'il y ait moins de taxes et qu'il y ait encore moins de
bien.
Beaucoup de priorités.
C'est vrai qu'il y a peu
Schwarzy.
De sociétés de jeux vidéo en Californie en plus.
Oui,
qui font des jeux plus 18 et équivalents, etc. Mature et compagnie. Bon. Très bien. Et eh ben, comme vous l'avez vu, voire entendu, j'aimerais que pour conclure ce podcast, eh bien, ce soit Julo qui conclue les choses avec la classe qui est la tienne depuis ce début.
Eh bien,
de podcast.
Écoute, comme on le disait en intro, eh bien, c'était un mois finalement beaucoup plus chargé que ce qu'on imaginait. Et j'ai envie de retenir que pour une fois, et d'habitude on respecte vraiment les traditions comme ça dans les podcasts de Gameblog, cette fois nous n'avons pas du tout parlé de nos coups de cœur et de nos coups de gueule.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu un scandale.
C'est, bah c'est, moi c'est mon coup de gueule, hein. C'est mon coup de gueule.
Et bah bien, t'as trouvé un coup de gueule. Emric, ton coup de gueule.
Alors, c'est dommage pour moi parce que mon coup de gueule est passé tout à l'heure. C'était le musée du jeu vidéo, donc c'est cette espèce de.
Parce qu'en fait, voilà, j'ai pas tout suivi. En fait, habilement, j'en ai profité pour les mêler à l'intérieur parce qu'on était grave à la bourre. Et que tout à l'heure, Julo, tu nous as dit il faut pas qu'on finisse après 22h.
Mais si tu dis pas coup de cœur, moi je ne retiens pas coup de cœur. Voilà,
d'accord.
Donc, c'était le coup de cœur de. T'aurais dû faire.
T'en as un, Julo?
Un coup de cœur?
Ouais. Envie d'avoir envie, je sais pas, un truc.
Non, en fait, en réalité, pour vraiment en trouver un tout à l'heure, parce que comme c'est une tradition et que je voulais la respecter,
non, parce que
j'avais choisi Monster Hunter Tri. Mais...
Voilà, parce que t'es censé en avoir.
Hein. Ouais, j'en ai. Monster Hunter Tri.
C'est surtout ça qu'on n'a pas fait en fait. On n'a pas parlé des grosses sorties du mois. C'est
très important.
C'est quand même plus important.
Monster Hunter
des...
Tri, oui, j'ai beaucoup aimé, à part, et là, ce sera mon coup de gueule, la gestion du Whispeak, qui est catastrophique. Et donc, je veux un Monster Hunter Tri sur PS3 ou Xbox, ce que vous voulez.
J'adore.
Oui, c'est génial.
Tavernier. Apporte-moi un Monster Hunter.
L'histoire me donnera raison.
J'espère bien. Sur Xbox, il arrive. Hein.
Oui.
Frontière, c'est ça.
Oui, bah, oui, bah, oui.
Effectivement, on n'a pas parlé des, on n'est pas revenu sur les tests principaux du mois d'avril. D'ailleurs, et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est vous renvoyer sur gameblog.fr pour avoir les titres, les tests de Super Street Fighter 4, de la Coupe du Monde Afrique du Sud, de WarioWare, de Dead to Rights, Retribution, de
Splinter Cell Conviction.
Voilà, de ouais, Fragile Dreams,
attends,
de BlazBlue.
Vraiment...
Bah tiens, ce qu'on peut faire, c'est quel est votre jeu préféré ce mois-ci?
Bah Monster Hunter Tri,
okay.
C'est pour en fait pour moi.
Super Street aussi.
Oui, d'accord, ok.
WarioWare, non?
Non, Rastil 2.
Non, mais non, qu'est-ce qu'il dit n'importe quoi? C'était le mois dernier. Mais non.
Bah je sais pas, ça te passe tellement vite, je sais plus.
Ouais. Bah si ça te revient
Allez-y, je vais réfléchir deux secondes.
Non.
Moi je suis obligé de tricher, moi c'est Alan Wake, je l'ai fini.
Ah bah c'est pas d'avril, hein, c'est pareil. Hein.
Oui d'accord, il sort en mai, mais bon.
Non mais le problème c'est que tout est décalé. On
ok, bon
avant,
bah alors moi je vais le faire, c'est facile. Vas-y, Splinter Cell Conviction qui m'a clairement convaincu.
Bah,
et c'est
moi aussi,
la première
coup,
fois
alors.
Pour un Splinter Cell.
Pareil,
parce que généralement j'ai jamais vraiment accroché, je trouvais ça un peu rigide, l'IA peut-être meilleur même que dans cet épisode, mais au final chiant, j'arrivais pas à jouer avec. Bah maintenant j'arrive à jouer avec un Splinter Cell, ça veut dire qu'effectivement l'IA sur certains trucs. Bah, au moins les choses sont claires. Quand tu te fais voir, elles vont aller là. Du coup, tu peux contourner et tu crées. Et pour tous les gens qui disent ouais, mais l'IA, elle est débile. Bah moi je leur réponds bah ouais mais au moins on peut s'amuser.
Ouais moi j'ai adoré aussi, c'est carré, voilà. C'est voilà. Propre, c'est carré et tu t'amuses et cet aspect très action, juste super jouissif quoi.
Mais le meilleur ça reste le coop quoi, sans déconner.
Et puis en plus pour une fois il y a un peu de scénar quoi. Oui. Il y a un minimum d'affect avec les personnages. Et franchement, je trouve que c'est la première
c'est
fois.
Plus vivant.
Mais c'est surtout qu'elle part pas dans tous les sens leur putain d'histoire. Donc pour une fois, tu peux la suivre correctement.
Ok. Et ben j'ai envie de dire. Ah non, Emery,
je voulais dire, ça paraît Super Street quand même.
Oh merde, ah, il ouais, a eu un podcast, désolé, un dossier, un test et tout, il veut continuer.
Mais non, mais Super Street,
c'est super.
Voilà, c'est super. Je kiffe. Allez, c'est voilà.
Allez, au revoir.
Allez, ciao.
sur ce, eh bien écoutez, maintenant à vous de réagir sur les forums de gameblog.fr pour revenir sur l'actualité qui vous a passionné au mois d'avril 2010. On se donne rendez-vous le mois prochain pour faire eh bien, le bilan du mois de mai et juste après eh bien, ce sera le 3, cramponnez-vous, on y est maintenant dans un mois et 15 jours et 13 jours même quasiment. Donc rendez-vous là-bas, d'ici là portez-vous bien et surtout jouez bien, ciao.
Salut.
Et la semaine prochaine un podcast complètement hallucinant sur les japonais, les jeux japonais
qui pètent les
plombs, débiles de l'histoire avec Florent Gorge, vous allez voir ça va être passionnant.
Ciao.
Au revoir.